Bonjour, bienvenue dans ce groupe de partage du samedi 14 juillet 2012, fête nationale, et je sens de dire aussi liberté, égalité, fraternité, comme trois valeurs qui sont celles de la France, mais qui sont bien au-delà de ça, des valeurs qui peuvent nous relier les uns aux autres. Et je suis heureux de citer cette devise qui est puissante à mon avis. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais donner le gong et puis nous allons en profiter pour commencer tous ensemble par notre présence pure à ce son. Voilà, heureux de vous accueillir dans ce lieu, dans cette journée. On est au milieu de l'après-midi, il y a encore un beau soleil, une belle verdure. Heureux aussi de t'accueillir, toi qui écoutes à distance enregistrement. En ce moment, tu es déjà parmi nous, avec nous, et le groupe est bien plus grand qu'il n'y paraît. Un seul sujet, c'est la non-dualité, et plein de choix pour y accéder. Les deux jours, sont des propulseurs pour poser la question de si on rentre chez nous. Voilà la question que de plus en plus d'humains se posent en ce moment, dans cette époque qu'on appelle l'apocalypse, la levée du voile de l'oubli, qui fait que de plus en plus chacun de nous peut se rappeler sa nature profonde et puis trouver des voies pour rentrer à la maison, des voies qui lui conviennent. Ça peut être énormément de possibilités différentes. Il y a beaucoup d'ouvrages non-duels. On parle beaucoup dans ces groupes de grands miracles. Moi, j'ai découvert récemment l'Évangile selon Jésus, qui est d'une beauté. Et puis d'autres le font grâce à la danse, grâce à l'art, grâce à la philosophie, grâce à la structure. Tout n'est pas de relever nos vibrations, parce que nos vibrations sont divines, mais nous avons choisi de les limiter en tant que défi à avoir plongé dans une obscurité intense, profonde, en étant certain que nous trouverions le moyen de nous relever et de sortir. Donc c'est pour ça que dans cette fin de cycle, en ce moment, sur Terre, nous sommes accompagnés par énormément d'êtres de lumière, et viennent nous épauler, accompagner, nous guider, pour la fin d'une période qui peut se terminer en apothéose sur Terre. La Terre est un merveilleux laboratoire pour tout l'univers, et une grande partie de l'univers, et même, selon certaines sources, d'autres univers, ont rendez-vous avec nous pour assister à l'acte final de la dualité. Voilà, cela dit, sans rentrer dans l'attentisme avec les dates, nous pouvons aussi nous rendre compte que les vibrations s'accélèrent, le temps s'accélère, les choses, il y a du mouvement partout, l'amour surgit de toutes parts, parce que moi je sens bien ça en ce moment, que demande et tu recevras, c'est plus que jamais d'actualité. en ce moment, parce que les intentions sont véhiculées par les fortes vibrations qui sont autour de nous en cette fin de cycle. Voilà, je vais déléguer l'après-midi à l'esprit, puisque c'est lui qui d'ores et déjà dirige notre réunion à travers nous, à travers nos interventions. Et je vais le faire en citant cinq phrases de Grand Miracle qui apparaissent à la page 30 et qui sont de nature à guider profondément. Et ces phrases disent ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces cinq phrases, mais ça parle avant tout de laisser faire les choses et de ne pas agir avec l'ego ou la réactivité ou le besoin d'avoir raison, mais rappeler que notre nature profonde, lorsqu'elle n'est pas de l'ego, est paisible, est tranquille, est dans l'amour, est toujours une expression juste. Il s'agit de laisser parler cette partie-là en nous. Et puis si on est agité, ça ne pose pas un problème particulier, puisque nous venons faire des expériences diverses et consiste à laisser l'amour de plus mener le jeu et à laisser la peur ou l'ego de plus rester tranquille, laisser l'esprit parler, l'amour à travers nous dans chaque situation possible, qu'elle soit agréable ou désagréable. Voilà, alors il y a un seul thème dans cet après-midi, c'est l'amour. Et puis pour demain, c'est aussi l'amour. Et puis pour tous les jours qui suivront dans votre vie, ce sera aussi l'amour, le thème. Et ce qui va faire la différence entre une journée et une autre, c'est par quel chemin vous choisissez de revenir à l'amour. Par le chemin du conflit, par le chemin du pardon, voilà, ces chemins-là mènent tous à Rome. Et Rome, c'est notre cœur, hein. Je me sens fortement guidé à citer quelques phrases de l'Évangile selon Jésus en tant que direction. Si nous nous sentons libres ou prêts à le faire, c'est les choses qui nous donnent, alors c'est parfait, hein, nous pourrons... Votre tâche n'est pas de condamner, mais de comprendre et de bénir. Dans le paragraphe qui s'appelle l'intégrité, page 117 de ce livre, l'auteur s'est porté. Et puis j'en ai commandé quelques exemplaires. tout ce qui est transcendant origine ce qui est humble, la lumière issue des ténèbres, la fleur sur le fumier. L'expression authentique de soi, le niche contre l'embarrassé. C'est une que j'ai notée tout à l'heure, que je sens de lire, qui est très belle pour moi, très courte. L'idée de s'éveiller fait peur à tout être endormi. Vous n'arrêtez pas de penser, quand je me réveillerai, je ne serai peut-être plus là. Voilà, réveillez-vous maintenant. C'est pas écrit dans le livre. La mort de l'ego, soit vous mourrez, soit vous mourrez, soit vous vous éveillerez, ce qui est une autre forme de mort. Dieu est une présence vivante dans notre vie. Là, je lis les têtes de paragraphe, mais quand je lis à l'intérieur, c'est la même chose. Dansez dans votre propre vérité. Ne vous perdez pas dans le monde. Avant de savoir qui vous êtes, vos chances de vous éveiller seront bien minces. Et puis, il y a une autre que je me rappelle, parce qu'elle m'a bien touché, c'est un travail qui n'est pas effectué dans la joie, est une piètre contribution au monde. Et moi je rajoute, quand vous le faites dans la joie, ça devient une œuvre. Paix sur terre. Quand l'amour est présent, le corps et le monde s'élèvent. Tant que vous aurez besoin d'être aux commandes, Dieu ne pourra pas intervenir. Oh, magnifique sur cette phrase. Je pourrais continuer longtemps. Chaque phrase est différente pour moi. Hein. Chaque phrase de ce livre, je pourrais l'avoir. Je sens que je pourrais l'avoir dite moi-même. Tellement elle résonne avec ma cloche intérieure, ma vérité intérieure. Voilà, pourquoi ça résonne en nous? Parce que nous avons déjà cette vérité et que ces vibrations qui sont contenues par ces mots éveillent notre propre vibration qui est déjà là. Et donc ça nous dit, ah, je le savais déjà ça, mais merci de me le rappeler. C'est ce qu'il m'est apparu très fort avec les livres d'Osho pour la première fois où j'ai ouvert un de ces livres. Je l'ai refermé assez vite en me disant, merci Osho. Je le sais, tout ça je le sais. Et ça n'empêche pas qu'avoir des petits rappels, c'est utile. Voilà, je pourrais continuer en donnant une direction qui peut résumer toutes les directions que nous citons fréquemment dans ces groupes. Dieu est. Donc c'est hors du temps et de l'espace, c'est toujours vrai. Et Dieu est aussi une autre manière de dire Dieu est tout ce qui est. Dieu représente la totalité de l'existence. Et chacun de vous qui écoutez et qui est choqué par le mot Dieu peut dire n'importe quoi qui est non-duel, qui résume l'existence en entier et qui nous inclut dedans comme un rayon fait partie du soleil, il est issu du soleil, mais il n'a pas d'existence propre en dehors du soleil, une vague fait partie de l'océan d'amour, mais une vague toute seule n'existe pas hors de l'océan. Donc Dieu est tout ce qui est, et nous sommes l'extension de Dieu, la manifestation de Dieu dans l'existence. Il y a une seule vie, et je la partage avec Dieu. Il y a une existence unique, commune, qui ne commence jamais et ne finit jamais dans ce monde non-duel, ce monde de Dieu est. Dieu étant tout ce qui est ne peut s'opposer à rien, donc Dieu accueille tout. Dieu est 100% non-jugement. quoi que ce soit que, en tant que création de Dieu, je veuille manifester dans ce monde, alors Dieu dit toujours, donne toujours la même réponse, d'accord. Dieu ne peut pas dire non à quoi que ce soit parce que j'ai le droit de manifester tout le champ d'expérience que je souhaite parce que je suis dans un monde de libre arbitre, dans un monde qui a été fabriqué par un esprit divin, mon esprit divin, pour répondre à la question que se passerait-il de l'amour. Chose que Dieu, si nous n'étions pas divins, tout ça, ça revient à l'esprit. C'est ce que le courant miracle appelle la petite idée qui est née dans l'esprit de Dieu. Et en réponse à cette question, le monde que nous connaissons, qui inclut des manifestations d'amour, mais aussi des manifestations de peur, est apparu pour nous donner un champ d'expérience pour expérimenter la réponse. Le non-amour on va enfiler votre costume. Maintenant vous êtes limité, maintenant vous êtes humain. Maintenant il y a une naissance et une mort, il y a des bornes, votre vie. Maintenant vous pouvez haïr. Et tout ça en apparence, puisque comme il n'y a que Dieu et que Dieu est pur amour, ce monde-là n'a plus été imaginé. Et on peut dire ouf quand même. Moi je peux le dire. Parce que il n'y a que l'amour qui soit réel, c'est imaginé. Donc c'est quand même un certain soulagement lorsque nous pouvons nous rappeler les formes extrêmes de non-amour qui sont présentées dans ce monde duel. Elles sont imaginées par notre intention divine d'expérimenter ça. Et ça n'en fait pas des choses réelles pour autant. Rappelez-vous que quelqu'un, un être divin comme nous, il y a une puissance dont nous n'avons pas idée, peut engendrer absolument tout ce qui est possible d'imaginer. Absolument tout. Les galaxies, les soleils, la terre, la haine, et aussi la bonté, la charité, la patience, l'abnégation. Voilà, tout ça c'est un théâtre d'expérience, c'est difficile à croire pour ceux qui ont une croyance en la dualité tellement forte que rien d'autre ne semble exister. Et pourtant, voilà, la dualité peut être résumée par l'intention de la dualité. Rien de réel n'est peut-être menacé. Rien d'irréel n'existe. Pour cela, sur la terre, rien d'irréel n'existe. Et si rien de réel ne peut être menacé, tout ce qui peut être menacé, un jour, ça sera vert, il n'est pas réel. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est solide, tout ce qui est visible par nous, par nos yeux, notre corps, notre corps, est menaçable et donc n'est pas réel parce que ce qui est réel n'est pas menacé et est éternel. Donc l'amour est réel, l'amour ne peut pas être menacé. Tout le reste est illusion. Dieu est réel et non menaçable. Voilà, on peut développer là-dessus. Pour certains, ça paraît pas du tout évident. Et puis, pour d'autres, ça devient une chose qui s'impose jour après jour de plus en plus fort. Le système qui s'accélère. Et le nettoyage se fait jour après jour. Et aussi, où les choses principales, les choses essentielles, comme notre essence, se manifestent de plus en plus. Et nous choisissons jour après jour ce qui est réel. Et en choisissant ce qui est réel, nous transformons notre vie, nous amenons le ciel sur la terre, nous amenons l'amour dans notre vie, au quotidien, de plus en plus, parce que nous avons fait le choix entre l'amour et la vie. Quel que soit le niveau sur terre, il s'agit de choisir avec l'amour, la peur, et lorsque je fais des choix de plus en plus élevés, eh bien, je laisse l'ego petit à petit s'endormir, s'assouplir et finalement se dissoudre. Et c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est quand j'ai plus besoin de l'ego pour dire j'existe. J'existe en dehors de la croyance que je suis un corps. Il y a une vie en moi qui ne naît pas et qui ne meurt pas, et qui est constante, permanente et qui est issue de Dieu. Et qui n'est pas résidente dans ce corps. On dit de temps en temps, ce n'est pas le corps qui contient l'esprit, c'est l'esprit qui s'imagine humain, qui s'imagine dans un corps humain, hein, qui s'imagine être humain. Nous sommes des dieux rêvants qui sont humains. Et c'est pour ça qu'on parle d'éveil. Hein, on parle d'éveil parce que pour certains, ils arrivent à des extrémités où l'ego est tellement menacé qu'il s'efface tout d'un coup parce qu'il trouve une extrémité dans laquelle il ne sait plus gérer du tout la situation. Comme Eckhart Tolle arrivé à être SDF au bord du suicide. Comme Neil de la gauche, pratiquement la même expérience. Plus d'argent, plus de sécurité, divorce. Mais Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça? Et puis son crayon s'est mis à écrire. Et puis les multiples expériences humaines actuelles, quelques-unes au Canada, d'autres ailleurs, de personnes qui arrêtent de se prendre pour la personnalité, pour le corps, qui vivent une expérience de détachement incroyable et qui peuvent dire il y a l'expérience de la joie. Se passe et non plus je suis joyeux, je suis joyeux. Il y a l'expérience de la tranquillité et ça se passe de manière qui n'implique pas le corps, qui n'implique pas non plus le sentiment séparé de je suis, hein, je suis dans le corps de la tranquillité. Voilà, donc bienvenue à toutes les interventions. Qu'elle soit anodine ou pas, qu'elle concerne qu'est-ce qui m'est arrivé pendant que j'étais dans un embouteillage dans ma voiture, de confrontant ou pas, qu'est-ce qui m'est arrivé au supermarché, qu'est-ce qui m'est arrivé dans le métro, qu'est-ce qui m'est arrivé de terrible, qu'est-ce qui m'est arrivé de magnifique. Il n'y a pas de degré d'intérêt dans les situations. Toutes sont des bons points de départ pour arriver au seul point d'arrivée possible, c'est-à-dire notre réalité ultime, celle qui n'est jamais menacée par quoi que ce soit. Voilà, bienvenue à vous. Et je sens aussi que de nombreux frères et sœurs qui nous écoutent, ils peuvent, à leur mesure, contribuer aussi à nos échanges en envoyant par email leurs questions, leurs contributions. Et puis, c'est tout à fait envisageable de revenir à une fois pour la prochaine séance ou simplement que je réponde par email quelque chose. J'ai parlé. parler, je ne peux pas parler, l'autre parle, l'autre ne parle pas. Je suis séduit par ce personnage, tel autre personnage ne me séduit pas, me repousse, etc. Vous pouvez remarquer que c'est votre histoire, c'est notre histoire à tous. C'est votre histoire. C'est-à-dire que l'histoire des autres, c'est toujours votre histoire. C'est vous qui voyez. Vous voyez un film dans votre vie, d'autres. Vous voyez, vous lisez des livres, vous lisez des livres écrits par d'autres. Vous vous dites, tiens, tel monsieur dit, quoi, il a trouvé ce livre extraordinaire. Tel personnage, ceci, cela. La seule constante, si vous observez bien, c'est vous. Parce qu'après tout, le matin, vous réveillez, c'est toujours vous qui êtes face au miroir que vous regardez. Parce que là que ça commence. Et là, on n'a pas le choix. Alors, je dis, bon, ben oui, mais moi, je ne veux pas de cette vie, je me suicide, je reviens. Je n'y crois pas, mais je reviendrai. Quand je dis je reviendrai, c'est-à-dire que je referai une expérience, parce que l'expérience ne s'arrête pas. Donc, je suis toujours en expérience. Et vous qui écoutez ces paroles, vous êtes toujours en expérience. Que vous vouliez ou non, que vous y croyez ou pas, etc., ça ne change rien. La vie est, il y a expérience, il y a apparemment des personnages, une multitude de personnages, 7 milliards sur cette planète. On nous parle maintenant d'extraterrestres, très bien, maintenant on nous parle d'intraterrestres, très bien. On nous parle aussi d'êtres désincarnés, donc l'esprit, de conseil christique, de tout ce que vous voulez. Mais vous apercevez que vous êtes toujours là. Donc c'est toujours votre histoire, c'est toujours vous qui percevez quelque chose. Et je viens d'employer le mot perception, et c'est fondamental. C'est vous qui percevez, 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 percevez. Le principe de la perception, c'est que ce qui perçoit, c'est ça l'illusion fantastique. C'est vrai qu'on le répète, et bon, on va le répéter indéfiniment, et on va le répéter, le répéter, le répéter, parce que c'est l'essence de notre expérience, c'est cette perception. C'est pour ça que le courant miracle parle maintes et maintes reprises et en long et en large des perceptions fausses. Il nous parle même en disant vous allez avoir vos perceptions changer en laissant l'esprit, ce qu'il appelle le Saint-Esprit, changer vos perceptions, en le laissant changer vos perceptions. Parce que vous ne pouvez pas, de l'intérieur du système de pensée de l'ego, là, vous ne pouvez pas changer par vous-même, parce que vous avez volontairement choisit l'illusion de la séparation en faisant des efforts, en imaginant, avec la puissance christique que vous êtes, imaginant la séparation. Donc, en faisant des efforts colossaux pour donner une réalité à l'illusion. Et c'est très très bien fait. C'est tellement bien fait que de l'intérieur de ce système de pensée, on ne peut pas s'en sortir seul. Et quand on dit qu'on ne peut pas s'en sortir seul, c'est encore évidemment une illusion, puisque c'est ce qui apparaît. Mais si j'essaie de m'en sortir seul, je n'y arriverai jamais parce que j'utilise la vision que j'ai de moi-même qui est une vision fausse. Donc j'utilise quelque chose qui n'existe pas. J'utilise l'ego qui n'existe pas pour sortir de cette prison dans laquelle je me crois enfermé. Et le principe de l'ego, justement, c'est d'imaginer une prison. Mais c'est remarquablement imaginé. Remarquable, c'est incroyable, c'est très puissant. Encore une fois, avec deux outils principaux, c'est le corps, l'imagination d'être réduit à un corps, et puis le temps linéaire. Le temps n'existe pas, mais c'est très bien fait. Le temps, c'est génial, c'est encore plus subtil presque que l'illusion du corps. Donc vous voilà, et nous voilà les uns les autres, face à nous-mêmes, toujours nous-mêmes. Alors on dit oui, mais il y a des sauveurs, il y a ceci, cela, il y a Jésus qui est venu il y a 2000 ans, etc. Mais Jésus disait, parce qu'il voyait très bien ça forcément, comme il avait un état de conscience très développé, il canalisait des énergies remarquables, étonnantes pour les gens à l'époque. Et donc il y avait des miracles apparents, il y avait des choses inhabituelles. Ce qui est normal, et il y a ça aussi à l'époque actuelle, et de plus en plus on peut en être témoin les autres de miracles, de choses exceptionnelles, apparemment. Alors qu'en fait il n'y a rien de plus naturel, comme dit le courant miracle, les miracles sont naturels, et lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose a été faussé. Mais on pense que c'est exceptionnel, un miracle. Et Jésus le voyait bien à l'époque quand il disait
si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. Ça veut dire, vous êtes, et c'est pas mal, c'est comme ça dans le processus, vous êtes fasciné par ma personne, vous me prenez pour un messie, vous me prenez pour un sauveur, et vous ne voyez pas à ce moment-là que le sauveur c'est vous-même, et que le royaume est en vous. Donc il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. C'est-à-dire, le consolateur, c'est la vision de qui vous êtes. C'est-à-dire l'esprit, enfin l'esprit que vous entendez, le Saint, ce qu'il appelle le Saint-Esprit. Donc si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir, parce que vous êtes fixé sur ma personne. Vous êtes fixé sur ma personne, et vous imaginez que vous allez être sauvé par quelqu'un d'extérieur. Et ça, c'est le principe de l'ego. Pour la grande moyenne d'entre nous, pour la plupart, évidemment, on va chercher des solutions dans des systèmes politiques nouveaux, dans des façons de vivre ensemble nouveaux, dans des éco-villages, dans des façons de... dans des nouvelles technologies, des nouvelles énergies, etc., des nouvelles façons d'avoir de l'argent. Et comme dit le Coran-Miracle, très clairement, vous ne cessez pour faire le ciel d'utiliser les moyens qui font l'enfer, parce que vous avez oublié que vous êtes créateur. Et que si vous essayez d'arranger le monde pour pouvoir avoir un peu de bonheur, vous mettez votre puissance dans des choses qui n'existent pas. Comme disait tout à l'heure Avi, qui rappelait l'introduction du cours, « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela se trouve la paix de Dieu. » Donc vous mettez votre confiance dans des choses qui ne sont pas réelles. Comment est-ce qu'une chose qui n'est pas réelle peut avoir un pouvoir, puisque ça n'existe pas? Donc quand je mets mon espoir dans des nouvelles façons de gérer des formes, ça ne marchera pas. Parce que je suis créateur. Et que je le veuille ou non, je suis qui je suis. Je suis le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'expression de la vie. Et ma pensée est toute puissante. Et personne ne peut aller contre ma pensée, comme personne ne peut aller contre votre pensée. Donc les sauveurs, le mythe des sauveurs, des messies, était vraiment un mythe. Parce qu'il n'y a rien à sauver, puisque nous sommes sauvés, nous sommes cela. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est très simple. Alors bien sûr, ça remet en question tout, et effectivement, ça peut faire très peur. C'est pour ça qu'il y a une partie de nous, qui ne veut pas entendre ce que Sylvain est en train de dire. Et Sylvain travaille lui-même sur cela. Parce que c'est bien gentil de parler comme ça, mais si c'est pas pratiqué, si c'est pas expérimenté, ça n'a pas de sens. Donc comment est-ce qu'on expérimente cela? Et tout à l'heure, avant ce groupe, nous discutions entre nous quelques minutes avant de démarrer l'enregistrement, et il m'est venu de partager un petit texte qui se trouve dans le deuxième livre de Richard Bach. Vous vous rappelez Richard Bach, Jonathan Livingston le Goéland, dans les années 80-90. Et puis ensuite, il a fait un deuxième livre qui s'appelle en anglais Illusions, Illusion, mais qui a été traduit par Le Messie récalcitrant. Et dans ce livre, dans l'introduction, il y a un petit texte qui est un peu comme le mythe de la caverne de Platon, c'est une allégorie. C'est très belle. Il parle justement de ce phénomène, ce qui montre bien le caractère illusoire du sauveur extérieur. Ça s'appelle l'allégorie de la rivière. Je vous rappelle que c'est tiré du livre Le Messie récalcitrant de Richard Bach. C'est une quinzaine de lignes, hein, c'est pas long. L'allégorie de la rivière. Il y avait jadis, dans un village, sur le fond d'un grand fleuve de cristal, des créatures. Le courant de ce fleuve glissait au-dessus de tous, jeunes et vieux, riches et pauvres, bons et méchants. Et le courant allait son propre chemin, ne connaissant que sa propre nature de cristal. Chaque créature, à sa manière, s'accrochait étroitement aux branches et aux rochers au fond du fleuve, car s'accrocher était leur mode de vie. Et résister au courant, tout ce que chacun d'eux avait sa naissance. Mais une créature dit à la fin, « Je suis là de m'accrocher. Bien que je ne puisse pas le voir de mes yeux, je crois que le courant sait où il va. alors je lâcherai et me laisserai entraîner où il veut. À rester accroché, je mourrai d'ennui. Les autres créatures éclatèrent de rire et dirent « Idiot, lâche donc, et ce courant que tu vénères te jettera, ballotté et meurtri, contre les rochers. Et tu en mourras, et plus vite que d'ennui. » Mais l'autre ne tint pas compte de ses quolibets, et retenant son souffle, il lâcha, et fut aussitôt ballotté et meurtri par le courant contre les rochers. Or, bientôt, comme il refusait de s'accrocher à nouveau, le courant le souleva et le libéra du fond, et il ne fut plus bousculé ni blessé. Et les créatures vivant en aval, pour lesquelles il était un étranger, se mirent à crier « Voici un miracle, une créature comme nous-mêmes, et pourtant elle vole. » Évidemment, parce qu'elle passe au-dessus d'eux, emportée par le courant. « Voici le Messie, venu pour nous sauver tous. » Et celui que le courant emportait dit « Je ne suis pas plus le Messie que vous. » Le fleuve se plaît à nous soulever et à nous libérer, si seulement nous osons lâcher. Notre véritable tâche, c'est ce voyage, cette aventure. Mais les autres criaient de plus belle, « Sauveur, sauveur !» tout en s'accrochant au rocher. Et lorsqu'ils levèrent la tête une deuxième fois, celui que le courant portait s'en était allé. Alors, resté seul, il fabriquait des légendes à propos d'un sauveur. C'est la fin de ce message. Cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas attirés par tel ou tel personnage, que tel personnage va nous fasciner. Nous allons effectivement être guidés à l'observer et à recevoir ce qu'on pourrait appeler un enseignement, mais ce n'est pas un enseignement directement. Mais ce que nous allons bientôt comprendre, c'est que c'est notre corps lui-même qui a fait ça. Cette rencontre. Il n'y a que Dieu, et Dieu est tout ce qui est, donc il n'y a que nous. Comme dit le courant miracle, nous n'oublie jamais cette rencontre. Donc si je suis fasciné par telle ou telle rencontre, par un personnage, que ce soit Jésus, un ami, qui vous voulez, c'est vraiment moi-même avec un M majuscule que je rencontre. C'est le Christ, c'est qui nous sommes. Et c'est comme ça pour tout. Pour les 7 milliards que nous sommes, c'est comme ça pour les extraterrestres, les intraterrestres, les êtres de lumière, ce qui vous voulez, puisque tout est Dieu, Dieu est tout ce qui est. Et une nouvelle fois, je vais vous confier ici qu'il y a une accélération des processus de communication avec d'autres mondes, ici avec cette planète Terre. Vous avez pu observer sur le site d'Avi, et puis vous pouvez voir sur Internet, on a de plus en plus d'informations, de messages, de communication avec les extraterrestres. Je vous dirais qu'à ma surprise, alors que je connais leur existence depuis bien longtemps, j'ai même eu des contacts sporadiques avec eux, je parle des intraterrestres maintenant, et j'ai eu des contacts récents avec des intraterrestres. C'est des peuples qui sont à l'intérieur de la Terre, qui ont été, d'après ce qu'on sait, qui se sont enterrés à différentes époques, en particulier après l'emplissement de l'Atlantide il y a environ une quinzaine de milliers d'années. Mais ça existe. Alors bien sûr, ils ont d'autres technologies, mais c'est des frères, c'est des êtres de lumière. Et il y a de la peur. Et ce que j'ai que partage avec vous, j'étais à côté d'une personne qui canalise de plus en plus, qui est médium, et elle a éclaté en sanglots lorsque ces contacts ont eu lieu, il y a quelques jours, j'étais avec elle, et elle a éclaté en sanglots parce qu'elle a senti de la peur. Effectivement, comme ici sur la Terre, que ce soit aussi dans les mondes extraterrestres ou les mondes intraterrestres, il y a des différents états de conscience. Donc il y a des êtres qui ont des leaders, dirigeants, des êtres qui sont plus conscients que d'autres. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de peur. Et en particulier, avec ce que font les êtres humains sur la Terre, sur la surface de la Terre, avec les gaz de schiste, avec les explosions atomiques, etc., avec tout ça, avec aussi les tsunamis. Et c'est pour ça que la Terre est quand même laissée à elle-même et en même temps très très protégée par une gigantesque ceinture d'êtres extraterrestres bienveillants. Et ces êtres intraterrestres, évidemment, ils sont avec nous sur cette planète. Ils sont à l'intérieur, mais c'est des frères ici. Et disons, nous sommes ensemble. Alors bien sûr, nous ne sommes pas le corps, c'est des expériences. Comme nous, ils font des expériences. Mais comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de nos frères et sœurs, il y a des peurs. Comment est-ce qu'on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Éclater de rire. Mais pas un rire moqueur. Tout va bien. Nous sommes qui nous sommes. Le plan divin se déroule parfaitement. Cette planète n'existe même pas. Elle est imaginée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sert pas. Parce que tout est utile, comme dit le courant miracle. Donc toutes les expériences que nous avons choisi de vivre sont utilisées pour le réveil général. C'est pour ça qu'on nous dit que ce qui se passe actuellement fascine l'univers. Que ce soit intraterrestre, terrestre, extraterrestre ou monde de l'esprit, il y a une communion d'êtres qui se réveillent ensemble, qui évoluent ensemble dans la reconnaissance de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire nous sommes le vivant. Dieu est tout ce qui est. Nous sommes ce que le courant miracle appelle le Fils de Dieu, ce que Jésus appelait le Fils de Dieu. Ça veut dire l'expression de la vie, l'expression de ce qui est éternel, à jamais menacé, à jamais non menacé, donc éternel, au-delà du temps et de l'espace. Bien sûr, c'est esprit. Et nous allons vers un monde incroyable où on pourra dire avec des mots. Et alors la pensée sera la seule forme et l'amour la seule pensée. Et alors la pensée sera la seule forme puisque nous allons voir nos pensées se matérialiser immédiatement, instantanément. Et alors la pensée sera la seule forme et l'amour la seule pensée. Et l'amour c'est qui nous sommes. Et donc c'est ça le retrouvaille, c'est le retour à la source, c'est le retour chez nous où effectivement même dans une expérience de matière, la pensée devient la seule forme, elle est immédiatement manifestée, mais l'amour est la seule pensée. Alors si ça parle à votre cœur, tant mieux, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, mais je sais que ça va parler à de plus en plus d'entre vous. C'est ça ce réveil que nous faisons ensemble. Je dis bien ensemble. Je parle des 7 milliards que nous sommes, de nos frères et sœurs intraterrestres, de nos frères aussi et sœurs extraterrestres. Et de tous les êtres de lumière. Et s'il vous vient des pensées genre « Ah oui, mais il y a les petits gris, il y a des êtres malveillants, etc. » C'est des frères aussi. C'est un jeu cosmique gigantesque, un jeu d'illusion, un jeu de bien et de mal qui n'existe pas. Le mal n'existe pas. Seul Dieu existe, c'est-à-dire le bien sans opposé. Le reste est de l'imaginaire. Alors amusons-nous dans l'imaginaire. Jouons, nous sommes dans le bac à sable comme des petits enfants, mais jouons comment? Avec amour. Et c'est le secret. Quand on parle du secret, quand on parle de la pensée créatrice, très bien. Mais tout ça, s'il n'y a pas l'ingrédient d'amour, le secret qui est la matérialisation de la pensée, c'est le ver dans la pomme. Si on veut se servir de la loi du secret, c'est-à-dire la loi de la création par la pensée, mais en ayant encore des peurs, il va y avoir de la souffrance. Donc la seule chose qui ait vraiment un sens, c'est cette ouverture à l'amour inconditionnel, à qui nous sommes vraiment, à la vérité sans opposer, à cet amour incroyable, qui est notre essence, qui est tout ce qui est. Tout être est l'amour, et tout être c'est moi, et tout être c'est vous.
Il me vient de dire que ce groupe n'est ni grave ni sérieux, et que, en fait, nous sommes dans une, ce que le cinéma appelle une comédie dramatique. J'aime bien la juxtaposition de ces deux mots. Voilà, une tragicomédie, hein, cette illusion que nous vivons sur Terre, même si elle paraît tout à fait réelle, est une pièce de théâtre dans laquelle chacun joue un rôle, choisit un rôle, et ce rôle peut être tragique ou comique ou léger. Et puis lorsqu'il y a eu assez de rôles tragiques joués et assez d'enseignements tirés de ces expériences tragiques, alors nous pouvons joyeusement choisir des choses plus légères, parce que notre âme est satisfaite d'avoir expérimenté ce que nous appelons l'ombre ou l'obscurité. Alors, il y a une phrase qui est issue d'un cours en Mera qui me parle bien de comment sortir du rêve et pourquoi c'est si difficile de sortir du rêve. C'est juste très court. Ça dit: nous avons besoin d'aide pour nous éveiller du rêve parce que nos sens physiques n'acceptent que l'information qui renforce notre croyance en la réalité du rêve. Donc ça, c'est assez puissant pour moi, cette phrase. Parce que notre cerveau analyse les impulsions physiques qui viennent de nos sens, les yeux, les oreilles, l'olfaction, le toucher. Et par une sorte de boîte noire, convertit ces impulsions, ces sensations en perceptions. Donc il y a une sorte de programme qui dit, voilà, je vois un certain train d'onde, ah ben là c'est rouge, hein. Là c'est bleu, là c'est de la vigne, là c'est une chemise à carreaux. Mais c'est tellement bien fait que nous ignorons pour la plupart, nous avons oublié pour la plupart que nous choisissons le programme informatique qui convertit ces impulsions en notre réalité. Et la question que je pose de temps en temps, c'est: s'il y avait un bug dans le programme informatique, tout d'un coup nous percevrions quelque chose de complètement différent. Donc, comme nous sommes divins, puissants, et que nos croyances sont à l'image de cette puissance divine, nos sens n'acceptent de nous montrer que ce que nous voulons croire. Et là, c'est assez puissant, puisque c'est plus « je crois ce que je vois », mais c'est « je vois ce que je crois ». Donc, ça rentre, je le traduis, mais je le traduis comme j'ai envie de le traduire, comme je crois qu'il est bon pour moi, pour satisfaire mes croyances, de le traduire, et ensuite je le vois, ou ensuite je le touche, ou ensuite je le sens, ou ensuite je le perçois. Il y a une zone, ce qui se passe entre l'œil qui voit des flux de lumière variés et les images qui se forment, aucun scientifique aujourd'hui ne sait comment ça se passe. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cerveau. Et le cerveau, c'est l'esprit, c'est notre esprit séparé qui habite le divin et qui décide aussi de ce qu'il serait bon de voir. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Parce qu'on a un programme très puissant qui nous dit: tu crois cela, donc à tes ordres. Ok patron, tu vois cela. Et donc nous sommes le patron, l'ego, et la croyance forte que nous avons d'être séparés des autres fait que nous modelons notre programme informatique Donc nous écrivons le code nécessaire pour que ça satisfasse cette croyance. C'est pour ça que certaines personnes qui s'éveillent, tout d'un coup, voient la danse des particules, la danse des molécules et des atomes. Ils ne voient plus les images réellement. C'est relaté dans certaines expériences d'éveil, ça. Il n'y a aucune raison pour que je vois cette bouteille bleue comme étant bleue. Hein. C'est une convention. Et une convention qu'on a tous été d'accord pour signer. Mais on n'a pas lu les petits caractères du contrat. Attention, cette illusion peut entraîner une addiction sévère. Signez que vous êtes d'accord. On a tous signé. Cette illusion, nous ne garantissons pas la réalité de cette illusion. Signez-la. Je le dis sous forme comique, hein, mais en vérité, c'est nous étions d'accord, hein, pour entrer dans ce monde illusoire, comme dit Saluza dans ses canalisations récentes. Nous nous sommes enfoncés profondément dans l'obscurité pour voir si nous pouvions avoir la force pour relever le défi énorme de nous relever de nous-mêmes sans aide extérieure. Et c'est en train de se passer, hein, pour moi, dans ce monde actuellement, dans cette année 2012 qui est au niveau énergétique que je ressens particulièrement puissante, au niveau de la réalisation de nos intentions en particulier. Voilà, et puis il y a dans un autre passage d'un cours en miracle, il est dit aussi quelque chose de similaire. Ce que la perception voit et entend paraît être réel, parce qu'elle ne laisse monter à la conscience que ce qui est conforme au souhait de celui qui perçoit. Voilà. Donc nous avons besoin d'aide, hein, pour sortir de ce schéma, parce que c'est déjà programmé, tu verras de cette manière. Hein. En fait, qui a programmé? Nous. Mais nous, à un état subtil, à un état de conscience différent, notre esprit juste, hein, on l'appelle le Saint-Esprit dans un cours en miracle, et nous avons soigneusement oublié que c'était nous, parce que sinon ça n'aurait pas tenu 2 secondes, hein, cette illusion. Il est nécessaire que cette illusion soit crédible, sinon elle s'écroule comme un château de cartes aussitôt fabriqué. Donc, ne jugeons pas l'illusion, même si elle a des aspects parfois qui sont terribles, hein, dont nous nous passerions bien au niveau humain, mais dont notre âme est friande malgré tout, parce que notre âme ne juge pas les expériences. Notre âme est friande de toutes les expériences. Tu veux te suicider, suicide-toi. De toute manière, tu es un être immortel, tu ne peux pas mourir. Tu vas simplement croire que ton corps arrête de fonctionner, et puis croyant ça, tu vas te dire « Ah, mais j'ai pas fini mes expériences. Bon, allez, je me fabrique un autre corps et on continue. » Voilà, en route, j'ai gagné le pompon, un deuxième tour de manège, ou un centième tour de manège, selon. Mais je reviens toujours avec cette croyance forte que je veux voir ce qui satisfait mes croyances. Hein. Et pourquoi on voit tous dans cette pièce la bouteille comme étant bleue? Parce que on a choisi le même rêve de séparation. On a choisi les mêmes conventions pour bien jouer notre rôle. Hein. On a choisi des choses. Il y a un rêve qui est collectif et puis il y en a un autre qui est individuel. Et puis arrivent dans notre vie des événements qui font que nous commençons à nous ouvrir à la lumière qui est en nous et à la lumière du monde, et à reconnaître l'amour pour ce qu'il est et à reconnaître aussi l'ego pour ce qu'il est. Ça s'appelle le discernement. Ça ne veut pas dire que nous sommes sortis de la dualité, ça veut dire que nous commençons à savoir ce qui est réel et nous commençons à donner moins de poids à ce qui ne l'est pas. Hein, par exemple, la peur n'est pas réelle. Et donc, si je me focalise sur ce qui me fait peur dans une situation, donc j'augmente l'espace de perception de cette peur. Et ce qui fait que ça peut occuper, ça semblait occuper tout l'espace de ma perception. Et à ce moment-là, je ne vois plus l'amour, je ne vois que la peur. Si j'ai mal aux petits doigts de pied, je peux, en me focalisant dessus, oublier que 99% de mon corps va bien. Donc, c'est pareil pour la peur. C'est comme un ballon de baudruche. Je dis, ah oui, il y a la peur, il y a la peur. Oh, oh là là, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je gonfle le ballon de baudruche. Chaque fois que je donne de l'énergie, c'est-à-dire j'alimente une croyance, qu'en effet c'est horrible, qu'en effet il faut que ça cesse, que des choses qui sont seulement alimentées par ma réactivité, ma peur et donc en définitive mon ego, je fais en sorte que ça occupe tout mon espace de perception, alors que l'amour est toujours là. Mais à ce moment-là précisément, je ne vois plus. Hein. Pourquoi ? Parce que j'ai gonflé la baudruche et qu'elle est devant mes yeux, elle occupe tout mon espace visuel. Mais la baudruche n'est rien, et l'amour est tout. Et il suffit d'une petite épingle pour d'un coup enlever complètement la baudruche de mon espace visuel. Pourquoi ? Parce que la baudruche était pleine de vide. La baudruche était vide, était sans aucune matière. Comme un nuage peut avoir l'illusion de masquer le soleil, alors qu'un nuage est tellement léger que ça flotte. Comparer la matière d'un nuage à la matière du soleil, il n'y a pas de comparaison. Et le soleil donne, donne, donne. Et il donne à tous, hein, de la même manière. Mais si je confonds le nuage qui masque le soleil avec le soleil, alors j'entre dans un autre niveau de perception. Donc il y a de multiples opportunités dans notre monde pour se rappeler, hein, pour se rappeler que nous pouvons voiler la perception juste, l'amour, autant que nous voulons. Nous pouvons nous hypnotiser avec ça autant que nous voulons. Et en même temps, nous voyons bien que c'est pas en définitive, c'est facile de voir que c'est pas réel. C'est facile de voir que le nuage n'a jamais éteint le soleil. Le soleil derrière le nuage continue à briller. Mon corps, à part le doigt de pied qui fait mal, continue d'aller bien. Et l'amour derrière le nuage de la peur continue de donner à tous sans distinction et sans condition. Et donc dans notre vie parfois nous commençons à voir la lumière à travers les nuages, hein. Les nuages commencent à se clairsemer, nous sortons un peu de l'obscurité des nuages noirs et les nuages s'éclaircissent, le ciel bleu apparaît. Et dans ce ciel bleu, le soleil aussi apparaît. Et quand nous commençons à voir la beauté du soleil, la puissance de l'amour dans nos vies, alors nous commençons à vouloir servir l'amour. Hein, et c'est ce que, dans les textes que nous recevons, nous devenons ce que nous appelons des artisans de la lumière. C'est quoi les artisans de la lumière ? Ils ne sont pas supérieurs aux autres, ils ont simplement fait plus d'expériences. C'est comme les grands frères qui ont expérimenté plus de choses, qui ont vu la lumière et qui ont décidé de se mettre au service de la lumière plutôt qu'au service de l'obscurité. Donc, qui est artisan de la lumière ? Tous ceux qui se sont laissés toucher par la lumière à un moment ou à un autre de leur vie et qui ont décidé d'en faire quelque chose d'important. Vous qui êtes assis là, vous êtes cela. Vous qui écoutez cela, vous êtes cela. Pourquoi ? Parce que sinon vous ne seriez pas là. Et sinon vous n'écouteriez pas ça. Parce que vous avez manifesté une motivation à servir la lumière. Et ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas la dualité, mais vous pouvez faire la différence. Vous avez ce discernement entre l'ombre et la lumière. Et donc Yeshua nous parle de la voie de l'artisan de la lumière d'une manière très touchante pour moi. Parce que c'est très humble. Qu'est-ce que l'artisan de la lumière a à faire dans le monde ? Il dit que sa voie ne consiste pas à prêcher un monde meilleur, ça ne consiste pas à faire quelque chose, il s'agit de se tourner vers l'intérieur à tous les niveaux et de vraiment vous connaître et vous aimer. lorsque vous recevez ce don d'amour, automatiquement vous le transmettez aux autres. Vous êtes devenus des artisans de lumière, même si vous ne faites rien de spécifique. Vous allez apporter un changement dans le monde, simplement en étant vous-même. Donc, reconnaître la lumière en moi, reconnaître l'amour en moi, me porter l'amour comme je le reconnais, hein, c'est-à-dire arrêter de me juger, par exemple. Je ne peux pas aimer qui que ce soit si je commence pas par m'aimer moi-même. Et quand je commence à m'aimer moi-même, comme disait Sylvain, je deviens un exemple pour tous ceux qui m'entourent. Donc j'ai pas besoin de prêcher, j'ai pas besoin de convaincre, j'ai besoin d'être moi-même. Et qui je suis, qui suis-je ? Pur amour. Quand je commence à reconnaître que je suis le soleil, l'amour pur, ben le soleil donne. Il donne de manière égale aux pauvres et aux riches. Hein, il fait pas de distinction. Il réchauffe tout le monde. On a un exemple d'amour inconditionnel avec notre soleil. Donc il y a une autre phrase qui me revient, c'est la seule manière d'aider qui que ce soit, c'est de lui montrer l'exemple d'une personne rayonnante. Et qui rayonne ? Le soleil que vous êtes. Chacun de nous est le soleil. Mais le soleil est parfois voilé par des brumes d'inconscience. Donc je souffle sur les brumes, je fais l'expérience de l'amour qui est en moi, et je laisse les brumes se dissiper. Et quand les brumes se dissipent, ben, je peux rayonner facilement autour de moi. Et ben, je continue à être moi-même. Je n'ai pas besoin de convaincre « tu es pur amour, tu es pur amour ». Mais quand je dis ça, la seule chose que je fais, c'est je prive l'autre de son expérience, qu'il est ou qu'elle est pur amour. Mais lorsque je fais l'expérience que je suis pur amour, là je peux le rayonner. Parce que en définitive, j'ai besoin de l'expérience. Je n'ai pas besoin de conseils dans ma vie, j'ai besoin de faire des expériences. En vérité, je n'ai pas besoin non plus de faire des expériences, puisque je suis déjà ça. Mais je m'en rappelle grâce à ces expériences. D'une manière ou d'une autre, je rentrerai à la maison, hein, parce que en vérité, je n'ai pas quitté la maison. C'est la conscience d'avoir quitté la maison qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être transformée. Et cette conscience sur Terre se manifeste comme l'ego. Hein. Donc, être parti de la maison d'amour dans laquelle je suis en permanence, y compris maintenant. Sauf que je dors un petit peu et je crois que je suis ailleurs. Vous êtes à la maison, rêvant d'exil, hein, comme dit souvent Sylvain. Voilà. Alors quand nous nous rappelons que, en vérité, même dans ce monde, nous sommes déjà à la maison et que nous pouvons rayonner le fait d'être à la maison, au début de la fin de quoi ? Ben, la fin du voyage illusoire. C'est un voyage sans distance. On n'a pas quitté la maison, on a juste pensé qu'on pouvait la quitter. Hein. Je crois que je peux être non divin. Ok, patron, ben voilà. T'as à ta disposition la terre, t'as à ta disposition l'espace, t'as à ta disposition la matière, t'as à ta disposition le temps. Vas-y, joue. C'est notre bac à sable d'humain pour rêver à se croire humain. Mais dès que le jeu ne nous amuse plus, bah c'est fini, on détruit les châteaux de sable, on referme le couvercle du bac à sable, sinon il y a les chats qui vont venir dedans. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'en ai fait l'expérience. On ferme le couvercle et on dit fini de jouer. On a joué autant qu'on a voulu. On a joué de tout notre sou. C'est-à-dire, on a créé toutes les expériences. Et puis, on ne voit pas l'utilité de recommencer les mêmes expériences parce qu'on les a déjà faites. La fin du karma qu'on nous annonce vraiment de partout, justement, la fin de la dualité, qui est un peu la même chose. Le karma, c'est une loi d'équilibre. C'est action, effet action. Mais si j'ai joué dans ma vie le rôle du bourreau Et puis dans une autre phase de ma vie ou une autre vie, le rôle de la victime, avec le même partenaire d'expérience ou d'autres, eh bien on peut dire la scène est bouclée, hein, l'expérience est bouclée, parce que j'ai expérimenté le pile, j'ai expérimenté le face. La dualité, c'est ça, c'est l'ombre et la lumière, c'est le pile et le face. Tu veux être bourreau, ok, vas-y, à toi de jouer. Tu veux être victime, ok, maintenant c'est les autres qui t'agressent. Mais quand j'ai quitté une personne dans un couple, et quand je me suis fait quitter, j'ai expérimenté les états d'âme qui sont inhérents à l'un, qui sont inhérents à l'autre. Si j'en ai tiré les enseignements, j'ai bouclé l'expérience, j'ai pas besoin de recommencer. C'est ça la fin de la dualité, c'est je prends le bien, je prends le mal, illusoires, qui sont là sur notre terre, je les rassemble et je dis c'est terminé, hein, c'est bouclé ça. Maintenant, il n'y a plus que j'ai plus besoin d'inventer le mal parce que je sais à quoi ça m'a servi. Et je peux revenir à ma nature profonde, le bien sans opposé. Et avec de multiples, tous les opposés sur Terre, on les expérimente pour mieux les lâcher. C'est pour ça que le tantra, c'est la réunion du féminin et du masculin, c'est les noces mystiques. Hein. Il n'y a plus de mâle et de femme, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme, il n'y a plus que l'indifférencié, le non-sexué. Utiliser le deux pour se rappeler qu'il n'y a pas deux. Hein, mais célébrer la dualité en s'intéressant à lâcher. Hein, c'est l'outil, c'est le jouet que nous utilisons pour nous rendre compte que le jouet ne nous amuse plus, hein, et on lâche le jouet joyeusement. Voilà, ça peut nous rappeler de rire un petit peu de ce que nous vivons dans notre monde, parce que rien n'est vraiment dramatique si nous nous rappelons que c'est un vaste champ d'expériences qui sont à la base neutres, qui nous servent à choisir des états d'âme de peur, des états d'âme d'amour et à accumuler certaines expériences. J'ai parlé.
Donc dans le monde de l'esprit, est-ce que quand on est esprit et qu'on choisit la vie qu'on va vivre, est-ce qu'on a une mission? Donc, on en a une, mais enfin définie. Pourquoi les âmes, on veut dire, dans leur véhicule de corps, paraissent beaucoup plus évoluées, entre guillemets, que d'autres. Voilà, je me pose toutes ces questions.
Oui, merci pour ta question, parce qu'effectivement, il me venait de parler de l'origine de notre aventure. Et parce qu'évidemment, la question se pose. D'accord, ok, on a choisi, mais ça vient d'où ce choix et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, à chaque fois qu'on a ces questions, qui paraissent un peu sérieuses, bien sûr, on peut aussi dire que rien n'est sérieux, ce qui est vrai. Il y a quelque chose de très profond là. Et la clé, c'est qu'on sait toujours aller vraiment dans ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'absolu, il n'y a que la félicité absolue, il n'y a que l'esprit un. Et puis il y a le mystère des individualités, il n'y en a pas d'individualité, mais disons des identités divines, des fils de Dieu, c'est-à-dire des expressions de la lumière, comme les rayons du soleil, où il y a une infinité de rayons, mais pourtant c'est le soleil. Alors à l'origine, eh bien qu'est-ce que c'est que ce choix, effectivement? Et là, si vous voulez, on va aller doucement. On va donc revenir à... Essayons d'imaginer, nous sommes conscients d'être l'infini, d'être l'expression du bien absolu, de ce qui existe, d'être éternel, invulnérable, inviolable, il n'y a que Dieu, il n'y a que ce qui est. Bien. Et là, vient la pensée, et si nous n'étions pas qui nous sommes, on rit, c'est impossible, puisque nous avons cette conscience d'être le tout. Donc c'est drôle, c'est amusant cette petite pensée. On est tellement le tout, c'est tellement infini que rien n'est impossible et rien n'est rejeté, y compris l'imaginaire. Et donc ceux qui vont imaginer la séparation, ce sont les êtres très évolués justement. Et c'est ça la surprise. On a maintenant, on nous dit que dans les mondes de l'esprit, il y a beaucoup d'esprits qui ne veulent pas venir s'incarner. On nous dit aussi qu'il y a des âmes plus ou moins jeunes, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on est le Fils de Dieu et comme chaque être est totalement libre, tout à l'heure, puisque nous sommes le 14 juillet, Avi avait commencé le groupe en citant liberté, égalité, fraternité. Liberté. Et le courant miracle dit bien, Dieu est liberté. God is freedom. Dieu est liberté. Et donc nous sommes liberté absolue, infinie. Et la liberté, c'est liberté, on n'a aucune limite. Et dans des mondes, alors ça nous dépasse, parce que c'est des mondes multidimensionnels, c'est une dimension, on a choisi une expérience, qui c'est nous, justement nous allons y arriver là, une expérience humaine. Mais pour choisir cette expérience humaine, comme nous sommes à l'origine christique, totalement divin, totalement conscient, et nous choisissons en pleine connaissance de cause. Tout le monde, sans aucune exception, choisit en pleine connaissance de cause. Y compris ce qu'on va appeler les Illuminati, les grands méchants ou les bourreaux. On choisit un peu, on le choisit on va jouer un jeu qui est de tiers gigantesques, non seulement humaines sur cette planète, mais avec aussi d'autres êtres d'autres mondes. C'est un jeu qui est décidé. Et ceux qui viennent dans la vie humaine sont bien très agressifs, y compris les humanités, c'est tout ça. C'est ça qu'on nous dit. Donc, le fait d'aller sur la Terre, c'est déjà énorme. On parle bien des 7 milliards que nous sommes, y compris ceux qui sont des bourreaux, qui sont des spécialistes. Et à l'origine, et je reviens à cette origine, il y a une telle vision incroyable de l'invulnérabilité que nous sommes, qu'on y va joyeusement parce qu'on sait qu'on va. Mais comme on est créateur, au moment où, on imagine un moment, hein, dans un temps illusoire, ça fait rien, pour comprendre ce que je suis en train de dire, au moment où on imagine qu'on va sauter, qu'on va oublier, on sait qu'on ne peut pas oublier puisqu'on sait qu'on est qui nous sommes. Donc, on choisit en pleine connaissance de cause. Je parle des 7 milliards que nous sommes. Vous comprenez? Et donc, il y a un jeu fantastique qui est joué. On a osé imaginer la dualité, osé prendre des risques, il n'y a pas en sachant qu'il n'y avait pas de risque. Et donc, ceux qui choisissent, comme les, de rester, de s'accrocher aux portes de l'ombre, de s'accrocher à leur possession matérielle, à essayer de continuer à dominer les humains en mettant des puces, en supprimant les nouvelles énergies, tout ce que vous voulez, hein, en essayant de contrôler l'argent à un plan international et plus planétaire. Ce sont des êtres de lumière, c'est nous. C'est à l'origine, nous sommes d'accord pour ce jeu-là. C'est pour ça, encore une fois, que ça m'a étonné, mais après les attentats du 11 septembre, Crayon disait, à travers une parole, Crayon disait, vous avez tout été. Ça veut dire, en fait, vous êtes d'accord pour l'ensemble du jeu. Donc, ce qui se passe actuellement sur cette planète, vous avez tous été d'accord, non pas pour une forme particulière, vous avez été d'accord pour le jeu. Pourquoi? Parce que vous saviez qu'il n'y avait aucun risque. Aucun. Que c'est déjà la moindre, cette pensée de séparation, elle n'est pas réelle, on le sait, donc on joue à ça, on va dans le bac à sable, s'amuser, la dualité, en sachant de tout. Rien à craindre. Comme je dis tout à l'heure, on voit des intraterrestres qui peuvent ressentir dans notre relation humaine, on peut le ressentir comme j'étais avec cette femme qui l'a essayé de pleurer, en sentant ça, j'ai accepté cette peur. Et j'ai été utilisé pour parler de mon émanation. Ok, je comprends ces pleurs, je comprends cette peur. Donc je reviens à cette pensée originelle, ce choix originel. On ne peut pas comprendre. C'est vrai que beaucoup d'êtres nous disent, mais dites donc, sur la planète Terre, chapeau les humains, parce que vous faites un sacré travail. Et il fallait quand même une pleine conscience pour pouvoir pour jouer. Et je peux vous dire que j'étais une autre fois à côté d'un canal, un excellent canal, j'en ai déjà parlé ici d'ailleurs il y a 2-3 ans, peut-être, mais c'était arrivé il y a 6-7 ans et j'étais avec cette personne au téléphone et elle a eu une expérience où elle a vu, elle m'a dit, écoute, je suis en train de voir que c'est comme un lieu où nous choisissons les rôles que nous allons jouer ensemble. Et on était tous les deux en larmes parce qu'on a senti un tel amour, mais un amour, mais incroyable. Je parle des 7 milliards que nous sommes, devant ce jeu qu'on a choisi de jouer avec amour. Alors ça, c'est la pensée originelle, vous comprenez, c'est le choix originel. Ce que Yeshua dit dans The Other Voice et Journey Beyond Words de Brent Haskell, nous avons choisi en pleine connaissance de cause, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Parce que qui nous sommes, c'est innocent total, c'est puissance infinie, et donc on ne peut jamais avoir quiconque qui a une influence sur nous extérieure. Nous sommes totalement sur la Terre, les 7 milliards que nous sommes, avec des intraterrestres, avec des extraterrestres, avec des êtres de lumière, avec des forces de l'ombre, tout ce que vous voulez, qui vous voulez. Imaginer, se laisser aller et faire silence et laisser notre cœur s'ouvrir à ce choix originel qu'on ne peut pas appréhender avec des mots ou on ne peut pas le cerner, mais en restant dans la certitude de qui est la vérité, de qui nous sommes. Dieu est tout ce qui est, et donc il n'y a aucun problème, il n'y en a jamais eu. Et il y a un jeu gigantesque qui est joué, mais c'est rien. Et tout va bien. Et même si on dit, oui, mais il peut y avoir des tsunamis, la Terre peut sauter, et alors ? La mort n'existe pas. C'est un terrain de jeu, c'est un bac à sable. Il est gigantesque, il est incroyable, il est phénoménal, bien sûr. Par rapport à qui nous sommes, c'est rien, c'est une tête d'épingle. Une tête d'épingle, c'est rien. Ça semble être beaucoup, ça semble être extraordinaire. Donc, qui nous sommes ? Sur quoi faire, quoi dire, quoi répondre, dans telle situation, qu'est-ce que je vais faire, ou dire, ou ne pas dire. La réponse, c'est, il n'y a pas de réponse, mais c'est un état d'esprit qui est la confiance, qui est en particulier, qui peut être véhiculée. Il y a une introduction à ces 5 phrases. Et cette introduction, elle dit à peu près ce qui suit. Lorsque vous êtes dans une situation qui requiert de l'aide, vous pouvez déjà faire beaucoup pour vous-même et pour les autres. Si vous prenez la situation comme suit. Et là, c'est évidemment valable pour tout instant. Je ne suis ici que pour aider véritablement, véritablement, la vraie aide. Pas une fausse aide qui va encore recréer l'avantage de séparation. Et qu'est-ce que c'est qu'il est véritablement ? Eh bien, les phrases après vont un peu nous le montrer. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour présenter celui qui m'a envoyé, celui avec un C majuscule. C'est l'esprit d'amour. C'est celui qui a la vision juste de qui je suis. Je suis ici pour le représenter. Et représenter quelqu'un, c'est agir exactement comme il agit. Ici, dans la matière, bien incarné, ici. La troisième phrase, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je n'ai pas à me soucier, donc, je ne me soucie pas qu'est-ce que je vais dire dans telle situation. Je n'ai pas à me soucier, je serai dirigé. Et quand je me pose la question, je me pose toujours la question à un instant donné. Et dans l'instant donné, je n'ai jamais besoin d'avoir une réponse. La seule chose dont j'ai besoin, c'est ma confiance infinie, totale, dans l'amour inconditionnel, maintenant, et dans qui nous sommes tous. Donc si j'ai le moindre problème, des procès, manque d'argent, des relations difficiles, ce que vous voulez, des dirigeants politiques qui m'exècrent, ou ce que vous voulez, c'est l'amour la clé. C'est qui nous sommes, qui sont ces dirigeants politiques, qui sont ces illuminés, qui sont nos frères et sœurs. Liberté, égalité, fraternité, nous sommes frères et sœurs, 7 milliards ici, à part entière, égaux et libres. Alors on est loin de choses politiques qui ont trait à un hexagone ou un pays particulier. Vous pensez bien que, comme disait Avi, effectivement, ces trois mots-là sont vraiment merveilleux. Ils sont divins. Ils parlent de notre essence. Et ils dépassent largement les frontières de l'hexagone de cette France-là. Mais bravo pour cette devise. Donc, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. La quatrième phrase, c'est « Je suis heureux d'être là où je suis, sachant qu'il va avec moi ». Ça veut dire « Je suis heureux d'être là où je suis », ça veut dire « Maintenant, je suis à ma place ». Les 7 milliards que nous sommes sont chacun à leur place. Sachant qu'il y va avec moi, c'est-à-dire qu'on est accompagné par qui nous sommes. Parce que qui nous sommes, c'est qui nous sommes. Et donc forcément, c'est à l'intérieur, c'est ce qui est, c'est l'essence de chacun. Y compris de ceux qui, soi-disant, font partie des forces de l'ombre, vous comprenez? Parce qu'ils sont divins, c'est tout. Même les forces de l'ombre, dans ce jeu gigantesque, sont au service des forces de la lumière. Et la cinquième phrase... Je serai guéri en le laissant m'enseigner à être guéri. En fait, c'est en le laissant m'apprendre à guérir. Vous comprenez, c'est pas enseigner, c'est pas un enseignement. Parce que, en anglais, le mot to teach et to learn, c'est pas comme en français. Apprendre. J'apprends quelqu'un à conduire et j'apprends à conduire. Mais en anglais, c'est pas pareil. Donc, c'est dans le sens, j'apprends. C'est pas un enseignement didactique, c'est j'apprends. Je le serai guéri en le laissant m'apprendre à guérir. Comment est-ce que j'apprends à guérir? En accueillant la guérison, en voyant qu'il n'y a rien à guérir. C'est le fameux pardon dont parle le courant miracle, il n'y a rien à pardonner. J'accueille totalement l'instant présent, j'accueille totalement qui nous sommes un, la séparation ne s'est jamais produite. Et puisque la séparation ne s'est jamais produite, tous mes frères et sœurs, quelle que soit l'apparence, intraterrestre, terrestre, extraterrestre, illuminati, ce que vous voulez, tout ça c'est un. Et c'est pourquoi le cours en miracle nous dit, tout ce que tu as à faire, c'est accepter cette vision que tout est un pour toi-même. Parce que quand tu l'acceptes pour toi-même, tu l'acceptes pour tes frères et sœurs, puisque tu vois que tout est un. Donc tes frères et sœurs sont un avec toi. Donc tu t'occupes de toi, et si tu vas essayer de convaincre tes frères et sœurs, ou d'enseigner quelque chose, tu ne vois pas que tu fais de la séparation. Parce que tu admets que tes frères et sœurs manquent de quelque chose, et qu'ils ne sont pas un avec toi, et avec Dieu, et avec ce qui est avec la vie. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on s'occupe que de soi-même. On s'occupe que de soi-même. Et le travail ne se fait que sur soi. La pratique de ce dont nous parlons ici, c'est une pratique sur soi-même. C'est pas sur les autres. C'est quelque chose de fondamental. C'est pas facile souvent, parce que dans une situation où nous sommes victimes, où nous avons l'impression que l'autre s'est vraiment conduit d'une manière incroyable, qu'il a encore récupéré des choses, qu'il a... À l'origine, nous jouons une pièce de théâtre, nous avons choisi un rôle incroyable, des rôles incroyables, pour nous amuser à nous rappeler ensemble qui nous sommes. Et à passer au-delà de cette dualité. Et cette dualité, bien sûr, est utilisée. C'est un terrain de jeu fantastique. Avant, le terrain de jeu, c'était on s'amuse à donner une réalité à la séparation. Et maintenant, on change d'intention. C'est pour ça qu'on passe de l'énergie du 2 à l'énergie du 3. On l'a déjà dit ici, mais je vais le répéter. L'énergie du 2, c'est l'image, c'est le système immunitaire. Système immunitaire, l'ennemi est cerné, il est neutralisé. C'est un virus, il est neutralisé. Il fait du mal. Donc le mal est admis. Et donc il y a un système immunitaire. Et ça fonctionne, ça doit fonctionner comme ça, parce que n'oublions pas que humaine, elle est faite sur la dualité. Donc, un système immunitaire, un corps, il est fait pour essayer de survivre, alors qu'il est menacé depuis son origine. Parce que c'est la dualité, ici. Donc, le système immunitaire fait partie du 2, il a tout à fait sa place dans cette expérience duelle. Car rien de mal, c'est un jeu. On est dans le bac à sable, ici. Donc, dans le bac à sable, maintenant, on change d'intention, c'est fondamental. Et on fait un virage à 180 degrés. Et on arrive à l'énergie du 3. Qu'est-ce que c'est l'énergie du 3? Il n'y a plus d'ennemis. Il y a apparemment des apparences de virus, etc., mais tout est intégré. Il y a apparemment des petits gris, des êtres, des extraterrestres qui seraient malveillants. Il y a apparemment des Illuminati, il y a apparemment des frères et sœurs qui cherchent à avoir du pouvoir, des parents qui essayent de mener leur enfant, qui essaient, il y a des viols, ceci, ça. Il y a apparemment ça. Et maintenant, c'est l'énergie du 3. C'est le vrai pardon, c'est j'aime. C'est-à-dire j'accueille le jour, j'accueille le théâtre. Je remercie tous mes frères et sœurs, les 7 milliards, sans aucune exception. Je les remercie du jour parfait que nous vivons ensemble. Et effectivement, à l'origine, pour revenir à la question, oui, effectivement, il y a un choix, et ce choix, il y a un choix. Bon. Donc, au fond, si je parle des 7 milliards que nous sommes, Ben Laden, qui vous voulez, n'importe qui, à l'origine, il y a un choix d'amour, il y a une présence de lumière sans aucun opposé, il y a un jeu où on choisit la dualité pour s'amuser. Et si je pense que quelqu'un est victime, il me faut évidemment un bourreau, donc je crée le bourreau. Je suis créateur de ce monde duel. Je suis créateur de les difficultés que connaît la planète, apparemment. Je suis un créateur des exactions par les polices, les armées, etc., par tout ça. Ce qu'on appelle exaction, bien sûr, il n'y en a pas. Donc c'est quand même pas un jeu mièvre. C'est un jeu très fort. Et l'apparence est vraiment forte. On a vraiment l'impression d'être victime, on a vraiment l'impression que c'est insupportable. Et maintenant, nous passons à l'énergie du 3 et on décide autrement. On a un but différent. Quelque part, on dit stop, parce qu'on a fait le tour de la pièce de théâtre, on dit ça marche pas. Qui a envie de souffrir? Personne. Bon, on a vu, on a fait des démonstrations, ça apporte des pleurs, des grincements de dents, etc. On en a assez. Alors on va arrêter ça, comment? Par l'amour. Mais par l'amour infini, par l'amour inconditionnel, sans aucune exception. Et si on regarde bien le courant miracle, par exemple, qui est un instrument parmi d'autres, eh bien, à chaque fois, on est invité à ne jamais faire d'exception. Même si au départ, ça nous paraît difficile, on dit quand même, il y a des situations à pardonner qui sont plus faciles que d'autres. Oui, ok, ok. Mais tu vas voir, regarde, et peu à peu, tu ne vas plus faire aucune exception. Et ton amour va devenir une expérience d'amour inconditionnel, sans aucune exception, à l'infini. C'est pour ça que le cours va nous dire, par exemple, seule une patience infinie apporte des résultats immédiats. Infini, ça ne veut pas dire infini dans le temps, ça veut dire total. Une patience totale. Seule une patience infinie apporte des résultats immédiats. C'est simple d'être en amour total, ça veut dire, bon voilà, je suis dans l'instant présent. J'accueille ce qui se passe, je permets, je laisse le plan se dérouler, je m'abandonne. Je m'abandonne à l'amour, je m'abandonne à cette origine de tout. Je m'abandonne à cette pièce de théâtre que nous avons choisi de jouer ensemble avec un amour incroyable. Et nous savions à l'origine qu'il n'y avait aucun risque. Et comme nous sommes infiniment puissants, eh bien, il n'y a aucun risque. Parce qu'on le savait. Et ça, c'est le saut de l'amour. C'est ça la merveille de ce jeu quantique, ce jeu incroyable, duel. On savait à l'origine qu'on pouvait y aller parce que c'est impossible, la séparation n'existe pas. Et donc, c'était drôle au début, on s'est bien amusé. C'était tellement génialement imaginé qu'on s'est laissé entraîner dans l'oubli. Bon, maintenant, on croit à l'illusion. Et c'est ça le miracle incroyable, c'est qu'on se réveille au milieu de ça. Et c'est pour ça que l'univers entier a les yeux fixés sur cette planète en disant « Mais c'est incroyable de vous voir vous réveiller au milieu de cette obscurité, de cette noirceur. » Bravo les êtres humains, bravo. Alors tout va bien, même si tout semble aller mal. Et vous sentez bien que ce que je suis en train de dire là, si vous accrochez à la dualité, si vous accrochez à la réalité des problèmes, ça n'a pas de sens. Et si vous écoutez votre cœur, vraiment, dire ok, je prends mon temps, je vais demander de l'aide, je vais écouter mon cœur, je voudrais écouter ça, je voudrais ressentir ça, vous allez voir, vous ne pourrez pas manquer de le retrouver parce que c'est qui vous êtes. Et ça, c'est indélébile, éternel, inviolable.
Tout à l'heure, Avi, tu disais qu'on avait besoin d'aide pour être éveillé. Et Sylvain, Je t'ai demandé si on avait une mission. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des valeurs.
C'est ce qu'elle dit. La réponse était dans les phrases. Je n'ai pas à me soucier de ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. La mission, hein, mais ce qui est important, c'est qu'on est à l'école. Je suis ici que pour aider véritablement. J'irai ici pour présenter celui qui m'a envoyé, pour présenter l'amour, pour être amour. Donc la mission, on peut dire que c'est de propager l'amour, c'est d'exprimer l'amour, de partager l'amour. Et à ce moment-là, la mission va se faire de manière plurale. Tout le monde fait sa mission. Et que chacun fait ce qu'il peut avec ses croyances. C'est pour ça qu'on peut dire que chacun est à sa place. Effectivement, cette question dit, j'ai une fonction que Dieu m'a donnée. Et c'est une fonction qui est le sauveur du monde. C'est une fonction en esprit. C'est une ouverture à l'amour. Après, dans un rôle physique, matériel, savoir si je vais à tel endroit, si je vais déménager, si je vais... ça vient tout seul. Ça vient jamais tout seul. J'ai reçu dans ma vie très précise, où l'esprit me l'a montré d'une manière fulgurante, où je m'imaginais, on m'a dit par exemple, là tu as fait un travail sur la région, j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. Et puis, j'ai été piégé à certains moments en disant, tiens, peut-être que je vais recommencer un travail là. Et là, j'ai été ramené à l'ordre en disant, tu vois, le travail, il se fait tout seul. Mais ton travail, c'est vraiment d'aimer. Donc, occupe-toi que de ça. Et après ça, tu vas t'apercevoir que tu es parfaitement guidé à être à tel endroit. Écrire un livre, pas écrire un livre, parler, ne pas parler, n'importe quoi. Comme tes frères et sœurs. Mais... la source de tout, c'est cet amour. Il n'y a que ça qui est important. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ou ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Donc ma mission, elle est faite. C'est clair, hein? C'est vraiment ça. Et ça fait un peu peur, parce qu'on a envie toujours de se raccrocher à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que, c'est une erreur, qu'on a de la valeur parce que l'on fait. Donc on a l'impression qu'on va échouer. Et que j'ai une mission que je ne fais pas. Et donc je suis coupable. C'est très fort, mais c'est fort. C'est une mission. Ce qu'on dit l'instant présent, de m'ouvrir à chaque instant, à me recentrer sur l'amour, à me réaligner sur la vérité. C'est ce que j'appelle souvent mettre le féminin au centre de sa vie. Qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est l'ouverture. Je reçois le nom de Dieu. Je suis créateur, enfant de parce que j'ai conçu la semence. Et donc j'enfante de la lumière, j'enfante de l'amour, un partage. Et ça, chacun est appelé à faire. Et ça nous parle, ça. L'amusement, c'est que ça vient par nos relations, justement. Parce que nos relations nous permettent à chaque fois de rechoisir. Donc toutes nos relations sont nos relations créatrices. Et c'est pour ça que le courant miracle nous dit ton frère est ton sauveur. C'est-à-dire, n'importe qui, c'est une occasion de rechoisir. Choisir quoi? Ben l'amour. Au lieu de choisir la peur et la défense et l'attaque. Alors c'est vrai que ça suppose une confiance totale, c'est vrai. Et c'est ça la mission.
moi, ce que je voudrais savoir, c'est si on peut être pardonné. Notre question, c'est est-ce qu'on peut modifier le jeu ? Dans cette question-là, j'ai envie de dire oui, parce que j'ai l'impression de l'avoir. Malgré tout, il y a... je ne sais pas comment dire, mais... Je me pose sans arrêt des questions. Il y a une espèce de va-et-vient entre c'est possible, c'est pas possible. Et j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus.
Est-ce qu'on peut modifier le jeu ? Cette question revient très souvent. La réponse est oui et non. Enfin, c'est moi. La possibilité, à tous les cas, vous pouvez modifier le jeu. Choisissez, choisissez encore, choisissez, choisissez. Vos pensées sont des propositions divines. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je choisis ? Oui ou non ? Ben, je vais dire non, je choisis... J'ai de l'argent. Je suis victime d'un tel et d'un tel. Oui ou non ? Non, je suis pas victime, je suis qui je suis. Et donc, à ce moment-là, on me dit... Vous avez pas d'argent. Et d'autres arrivent en me disant... Pour un miracle, il dit choisissez, choisissez, choisissez. Par exemple, dans la leçon, le ciel est une décision que je dois prendre. Le ciel est une décision que je dois prendre. Voilà, donc il y a apparemment un choix. Et si on regarde la leçon, si on lit la leçon, c'est assez longue, il doit faire 2 pages et demie, 3 pages. C'est pour ça que, effectivement, je vais t'inviter à choisir toute la journée, à choisir, à choisir. Et puis le texte nous dit, jusqu'au moment où tu vas t'apercevoir qu'il n'y avait pas de choix. Donc les deux sont utilisés. La notion de choix est utilisée dans un processus qui est déjà terminé. C'est difficile à comprendre, etc. La réponse, c'est une possibilité, c'est oui et non. C'est-à-dire que, j'ai envie de te dire, vraiment trouver un job qui puisse aider tout le monde et moi-même, et puis avoir une vie harmonieuse où je gagne de l'argent et puis en même temps je fais des choses qui me passionnent. J'ai envie de choisir ça. Ouais, c'est juste. Vas-y, choisis. Choisis, choisis, choisis. Quand quelqu'un va te voir en disant comment tu as pu choisir, qu'est-ce que tu as fait ? C'est tout ce que j'ai senti, c'est tout ce que mon cœur m'a dit. Et j'invite chacun à faire la même chose. Donc, il y a choix, il n'y a pas choix. On peut dire aussi que le scénario est déjà écrit, tout est terminé. On a l'illusion de vivre un processus extrêmement complexe, ce qui se déroule. Et ce qui est important, c'est la joie du jeu. C'est pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai, au fond. Parce que si vous regardez vraiment ce que vous voulez, il y a une question, est-ce qu'on a le choix ou pas le choix ? Derrière cette question, si tu regardes bien, quelles sont tes vraies motivations ? Tu vas arriver à quelque chose de très simple, tu vas dire, mais j'ai envie d'être heureuse. Bien sûr, bien sûr. Alors je vais te dire, te gêne pas.
Jusqu'à ce moment fatidique, je savais pas que... Comment dire ? Je pouvais choisir. Et puis... À un moment donné, ben, j'ai fait le choix, j'ai fait un choix. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas, enfin, je me rends compte des effets. Et maintenant, je veux plus ça, quoi. Et je ne sais pas comment retourner, je sais pas si c'est le mot qui convient, mais je ne sais pas comment, si c'est possible de faire un autre choix, parce que le chemin sur lequel j'étais, enfin, je le voyais, je me sentais guidée. Je savais où j'allais sans savoir parce qu'il y avait l'inconnu, mais en même temps, je savais vers quoi j'allais. Alors que maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Quelque part, j'ai l'impression d'avoir fait un choix où il n'y a pas d'issue et où et j'ai l'impression d'être abandonnée. Et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, enfin la question que je me pose, c'est y a-t-il un choix qui, à un moment donné, est le dernier choix qui fait qu'on ne peut plus rien changer? C'est ça ma question.
J'ai l'impression d'être abandonné. Effectivement, on a choisi une expérience de séparation qui suppose une... imaginer la séparation, donc d'avoir quitté quelque chose, d'être seul, donc d'être abandonné. C'est inhérent à ce choix originel. Donc il y a bien eu un choix originel, qui était un choix, je dis instantané, simplement la pensée arrive, et évidemment c'est choisi, parce que toute pensée est immédiatement manifestée. C'est qui nous sommes, ça. Donc à l'origine, on peut dire que le choix, c'est simplement la pensée. La pensée arrive, hop, elle est là, séparation. Ah oui, tiens, c'est drôle. Il y a effectivement cette impression d'être abandonné, c'est normal. Et quand tu dis, j'avais l'impression avant de savoir où j'allais, le monde de l'ego pense savoir très bien où il va. Les gens font des stratégies politiques, religieuses, sociales. Ils écrivent des tomes, des bouquins, etc. Ça n'a jamais mené à rien, ça fait des guerres. On transforme l'histoire, etc. À chaque fois qu'on utilise la séparation en donnant une réalité, tôt ou tard, ça mène au chaos. Bon, la seule chose, c'est prendre conscience de ça, l'observer. Et naturellement, nous sommes arrivés au point où on dit maintenant, effectivement, et ça vient tout seul, j'en veux plus. Oui, être heureuse. C'est tout. Mais comme tu es qui tu es, comme nous sommes qui nous sommes, la pensée, je veux être heureux parce que c'est mon héritage, c'est qui je suis. Eh bien ça, c'est puissant. Ça fait partie du processus aussi. Et quand tu dis que tu te sens perdu, eh bien, souvent les guides nous disent bonne nouvelle. Parce que tu es en train de quitter des croyances à l'ancien. À la séparation et qu'on peut améliorer les choses dans la séparation. N'a rien à voir avec le monde de la séparation. Ça fait les faits, là. C'est vraiment ça. C'est pour ça que nos guides nous disent souvent, vous êtes perdu, vous vous sentez perdu, vous n'avez plus rien à quoi vous raccrocher. Bonne nouvelle, tant mieux. Enfin, ça devient sérieux. Ah, évidemment, ça nous fait peur. C'est ce que tout à l'heure disait Avi en disant, mais il y a une partie de nous qui ne veut pas ça. Parce qu'on a peur, on dit, mais je vais mourir, je m'accroche plus à rien. C'est... Regardez tout à l'heure le texte qu'on a lu avec le fond de la rivière, là, c'est les gens dans le village, il est très fort ce texte. Tout le monde dit, mais il est cinglé là, il ne s'accroche plus à rien, il va être perdu. Et c'est bien dit dans le texte qu'effectivement il est un peu fracassé là. Mais il s'aperçoit que, ouh là là, mais non, mais il y a un courant merveilleux et le moment où il est fracassé c'est très court, beaucoup plus court qu'on le pense. C'est pour ça qu'on est tous invités, ça demande du courage à se laisser aller. Bon ben, j'arrête de me battre. C'est ce choix-là. Et c'est un choix de lâcher prise. C'est un choix de stratégie. Faire ça ou ça. Ça ou ça, ne faire ou pas faire, ça n'a pas de valeur, c'est neutre. C'est un choix d'état d'esprit. Je choisis la vérité. Je choisis qui nous sommes. Je choisis l'amour. Je choisis les libertés que nous sommes. Ok, je ne le vois pas, ok, mais je choisis ça. Je choisis. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'aimer. Voilà, j'écoute mon cœur, je veux écouter mon cœur. Je veux plus des fables, des choses qui ne mènent à rien. Je veux ce qui est vrai, parce que je sens que c'est l'amour. Nous sommes en train de nous réveiller à l'amour et nous commençons à nous abandonner à quelque chose que nous sentons qui est vraiment authentique. Ça suppose évidemment une confiance. Et ça suppose évidemment de passer par ce passage où on se sent perdu. On va revisiter la séparation. On la regarde en face, bah, je suis paumé, je sais pas où je suis. Je pourrais m'accrocher à rien. Évidemment, j'ai fait une expérience où je suis rien. Donc, on regarde ça en face. Et il y a une partie qui ne veut pas regarder ça en face parce qu'on dit, mais c'est terrible, je vais voir que que j'ai perdu, donc je vais m'imaginer, non, mais j'attends quand même un compagnon, une compagne, j'attends de l'argent, j'attends un nouveau job, j'attends ceci, cela. Bon, t'attends plus rien. Très bien. Tu me dis que t'attends plus rien. Eh bien, bonne nouvelle. Alors, tu attends plus rien, très bien. Même si tu dis, il y a un choix. C'est déjà un choix. Si tu n'attends plus rien, tu peux regarder pourquoi tu n'attends plus rien. Je peux te dire. Et tu prends ton temps. Tu utilises le silence. Tu peux, si tu veux, déjà te donner des ordres, mais pas d'ordre, c'est une suggestion. Hein, c'est des suggestions. Je suis en train de le faire sur moi-même quand je parle comme ça. Tu utilises le silence. Pour ça, on parle de méditation, on parle de s'arrêter, de poser. Donc, c'est écouter profondément la petite voix intérieure qui ne peut manquer de se manifester. Et j'arrête de lui donner une forme précise. J'arrête de me dire, ça fait 5 minutes que je médite et j'ai encore rien entendu. Ça peut durer tout le temps, je m'abandonne complètement, je meurs dans l'instant. Et quand tu viens de dire, j'attends plus rien, c'est juste, mais regarde bien si c'est vrai. Et tu t'apercevras que c'est pas vrai, mais ça fait rien. Tu dis, ah non, effectivement, j'entends quand même des choses, bien sûr, tout le monde attend des choses.
La seule chose qui m'importe maintenant, c'est d'être heureuse, quoi. C'est ça. Mais je fais plus de projets. Comment dire? J'ai voulu à un moment donné, et en fin de compte. J'ai l'impression que ça c'est pas ce que je voulais, c'était choisir des moyens. C'est ce que je dis aujourd'hui, c'était choisir des moyens. Je voyais quelque chose pour arriver à ce que je voulais. Et puis en fin de compte, ça marche pas ça. Et quand je me suis... À un moment donné... Avant, c'est comme si j'étais attirée par la lumière et je pensais que ça allait se faire d'une certaine façon. Et puis en fin de compte, il y a eu des moments où... Vraiment où j'ai lâché prise. Et il s'est passé des choses. Et à un moment donné, sans que je cherche quoi que ce soit, j'ai été devant un choix où, enfin, j'ai envie de dire, vital. Mais j'ai pas fait. C'était tellement inattendu, tellement déroutant que. J'ai pas fait le choix que. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est une connerie monumentale, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'extrêmement. Plus que précieux, quoi. Parce que ça voulait dire quelque part abandonner. Il y a plein de choses, mais c'était abandonner ce monde-là. Et comme il y avait encore cette autre partie qui était là. Je me suis accrochée au connu, quoi, en fin de compte. Je me suis accrochée au connu. Et puis, après, la possibilité, elle a disparu, quoi. Et je me rappelle que, à cette époque-là, je me posais des tas de questions est-ce qu'il y a vraiment, je me disais, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment je suis entendue? Est-ce que je me posais toutes ces questions, quoi? Parce qu'il n'y a rien qui marchait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Rien qui marchait comme je pensais que ça marche, ça devait marcher. C'est plutôt ça. Et en fin de compte, il y a des choses qui se passaient, mais c'est pas ça que je voyais, moi. Et après, avec le recul, ben maintenant, je vois bien tout ça, quoi. Je vois bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je ne suis plus dans cet état-là. J'ai l'impression, là, moi, que les portes, elles sont... Enfin, en plus, c'est mon expérience corporelle qui me fait dire ça. Que les portes, elles sont fermées. Parce qu'avant, je me sentais guidée. Ça m'arrivait de me coucher le soir avec un problème et puis j'avais de la solution le lendemain. Enfin, des choses comme ça, quoi. J'étais fatiguée et tout ça. Il suffisait que je me mette dans l'énergie. Et puis après, j'avais une pêche du tonnerre. Il y a plein de choses qui se passaient comme ça, quoi. Et maintenant, ben non. Maintenant, j'ai l'impression que parfois, ça boue à l'intérieur. Je me sens très, très vivante dedans. Mais c'est... Je me sens emprisonnée dans mon enveloppe. Comme s'il n'y avait plus de sortie possible. Comme s'il n'y avait plus d'accès. Comme s'il n'y avait plus de lien avec l'extérieur, quoi. Il y a eu des moments où... au moment où j'ai eu ce choix-là à faire, où j'étais vraiment vivante, vibrante. Il n'y avait pas de limite. Et puis maintenant... j'ai l'impression d'être emprisonnée. Je ne sais pas s'il y a une issue, je ne sais pas s'il y a moyen de retrouver une porte de sortie. Parce que maintenant, je me sens plus. Enfin, je me sens vraiment emprisonnée dans cette enveloppe corporelle. Je ne sais pas. C'est pour ça que je me pose des questions. Est-ce que je suis abandonnée? Est-ce qu'on peut changer de vie?
Il me semble que le sujet principal auquel nous tournons, ou tu tournes dans cette histoire, c'est la culpabilité. J'ai fait un choix et j'aurais pas dû. Ce n'est pas le choix ni l'expérience qui sont en cause, mais le jugement sur le choix. Alors, comme nous sommes dans un rêve, à chaque seconde, je peux transformer le rêve en cauchemar ou en paradis à chaque seconde. C'est moi qui le crée. C'est moi qui ai les ficelles en main des marionnettes. C'est moi qui choisis. Sauf que j'ai fait un choix que je considère comme une faute. Alors, on fait bien la différence entre erreur et faute. Nous avons le droit à l'erreur et les erreurs sont là pour nous dire ce dont nous ne voulons pas. Mais quand je dis c'était une faute, je rajoute la culpabilité sur le... Et j'essaie de revenir dans le temps en arrière en disant « Ah, si j'avais su, j'aurais choisi. » Et lorsque je m'accroche à un événement du passé, de cette manière, en voulant changer l'ordre des choses, alors évidemment, je quitte l'instant présent dans lequel je suis créateur de ce qui se passe. Et je ne peux plus créer puisque je m'accroche à des choses anciennes. Eckhart Tolle disait, dans l'instant présent, il ne peut y avoir aucune peur. La peur est toujours rattachée à une mémoire ou à une projection dans le futur. Si vous êtes 100% dans l'instant présent, la peur est impossible. Et en même temps, qui crée le futur et qui crée le passé? L'ego. Qui sait s'attacher à des choses passées, l'ego,
qui rajoute la culpabilité sur des erreurs, l'ego. Donc, il y a une seule chose qui se met en travers de ton bonheur, c'est l'ego. Et en effet, nous avons fabriqué l'ego juste pour ça, pour nous couper apparemment de la route vers notre bonheur, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, dans l'instant présent, il n'y a aucune prise pour l'ego. Hein. Il n'y a aucune prise pour la culpabilité. Dès que je m'évade de l'instant présent, l'ego peut commencer à agir sur ma psyché, sur moi, sur en rajoutant des couches de « tu vois, t'es nul ». Tu vois, regarde la preuve, regarde comment est ta vie. C'est une croyance, ça c'est pas ce qui se passe. Hein. C'est, je crois que j'ai fauté. Et en fait, la culpabilité, je dis pas ça pour te rassurer, mais nous la portons tous. Puisqu'à un moment donné, nous avons choisi, en apparence, de quitter la maison de Dieu pour nous incarner en tant qu'humains et devenir limités. Et une fois arrivés sur Terre, nous nous sommes dit « Oh là là, la bourde, oh là là, la grosse bourde, oh là là, on va sûrement être puni pour cette bourde énorme. » Et c'est ce que les textes reprennent comme le péché originel ou les choses similaires. Donc là, une des clés possibles dans cette situation, c'est l'innocence. C'est retrouver l'innocence, puisque si je rêve les choses ne se sont pas passées, je n'ai donc pas quitté la maison de Dieu, je n'ai donc pas quitté ma nature divine, j'ai choisi de faire une expérience. Et mon panel d'expériences inclut des erreurs, c'est inévitable. Et ces erreurs sont utiles. Le problème peut venir quand je commence à m'accrocher au fait que j'aurais pas dû faire cette erreur-là. Mais ton âme voulait emprunter ce chemin-là pour savoir qu'est-ce que ce chemin-là lui apporterait. Et ce n'est ni bien ni mal. C'est ça l'innocence. Ce n'est ni bien ni mal. Comme tu es créatrice du rêve, tu peux décider à tout moment de clore ce chapitre en arrêtant de t'accrocher à ce qui s'est passé, et de créer autre chose. C'est ce que tu vis est le reflet total de ce que tu crois. Et si tu crois que tu es fauté, alors implicitement, et c'est pas seulement pour toi que c'est valable, implicitement, tu te dis, je dois être puni. Et donc, mon corps voilà, va dysfonctionner parce que ça correspond bien à la croyance. J'ai fait vraiment une connerie, c'est le mot que tu as dit. Et donc, quand un enfant fait une connerie, des parents qui ne sont pas dans la conscience d'accepter les erreurs, punissent. Et je suis aussi moi-même mon propre parent. Hein. Et quand je vois qu'une partie de moi a fauté, ou je pense qu'elle a fauté, j'envoie la punition pour, soi-disant, rétablir l'équilibre. En vérité, ça rétablit rien du tout. Culpabilité et punition, c'est un cercle vicieux qui m'entraîne dans « j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû ». C'est une impasse. Il n'y a pas de solution à la culpabilité. La seule façon d'en sortir, c'est de demander de l'aide pour voir mon innocence dans cette situation. Et l'ego ne te donnera jamais la vision de l'innocence, puisque l'ego, c'est celui qui, par nature, croit avoir fauté en quittant Dieu. Donc l'ego est imbibé de culpabilité. L'ego cherche sans arrêt le conflit pour oublier qu'il est coupable. L'ego cherche sans arrêt à accuser pour oublier sa propre culpabilité. L'ego fait encore mieux que ça et dit « Oh là là, cette culpabilité fait chier, qu'est-ce qu'elle m'encombre ? Tiens, tu la veux pas toi ?» Et donc je te la projette dessus. Et je commence à envoyer des cadeaux empoisonnés. Mais c'est pas pour autant qu'elle me quitte, c'est pas quand je la projette, au contraire, quand je la projette, je la vis encore plus parce que je la vois se manifester. Je peux pas la projeter sans la ressentir. Donc, quand je la projette, je dis, elle est en moi. Et quand je dis elle est en moi, bah, l'univers dit « Ok, patron, elle est en toi, à tes ordres, voilà, qu'est-ce que tu veux comme punition ?»« Tu veux être malade ? Ok. Combien d'exemplaires ? Combien de semaines ? Combien d'années ? Jusqu'à la mort ? D'accord, signe. Donc, la croyance, c'est ce qui signe. Je crois que j'ai fait une connerie, je signe un contrat qui dit « Je suis d'accord pour être puni. » Alors, on disait tout à l'heure, nous avons besoin d'aide pour sortir du cercle vicieux de l'ego. L'ego ne sait pas pardonner. L'ego est imperméable, étanche à tout ce qui est pardon véritable. Donc il y a une partie de nous qui sait pardonner, c'est l'esprit pur, celui qui ne s'est pas séparé de Dieu en pensée, celui qui croit en notre profonde innocence, et celui qui ne sait agir qu'au nom de l'amour. Donc, comment je contacte cette partie-là? En reconnaissant que la partie de moi qui se croit coupable ne sait pas comment restaurer son innocence. Mon ego ne sait pas comment sortir de cette impasse. Et ça peut se dire aussi, je ne sais pas quand le je incarne la partie séparée de nous, de notre esprit. Il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'esprit. Il y a une partie qui apparemment dans notre esprit est divisée, qui croit que nous avons commis une grosse faute, et que pour ça nous devons être châtiés. Voilà, cette partie-là a besoin de guérison, c'est tout. Et la partie qui guérit, c'est la partie qui est toujours dans l'amour. Donc je m'adresse à l'esprit pur, et je reconnais, avec le plus d'humilité que je peux, que je ne sais pas. Maintenant, si je suis dans la croyance profonde que j'ai fauté, c'est difficile d'avoir de l'humilité en même temps. Parce que il y a quelque part une certitude qui dit, j'ai fait une bêtise et je dois payer. Donc, je ne sais pas comment lâcher ça. Humblement, je sais que quand je continue ce truc, ce mécanisme, je tourne en rond et j'amplifie la culpabilité. Parce que je ne sais pas comment lâcher la culpabilité. Et je ne sais pas comment lâcher la croyance. Donc, il y a une partie de moi qui est à l'écoute de mes désirs profonds. Mais comme j'ai le libre arbitre, j'ai besoin d'exprimer mes désirs profonds en intention véritable. Saint-Esprit, aide-moi. Et quand je dis Saint-Esprit, c'est je m'adresse à moi-même dans la partie qui sait aimer et qui sait m'aimer moi-même en premier. Donc, oui, j'ai cru à des tas de choses fausses. J'ai cru que je pouvais avoir fauté. J'ai cru qu'une erreur était une faute. Voilà. J'ai envie de me pardonner pour ces erreurs-là. Et j'ai envie de retrouver mon innocence. Saint-Esprit, aide-moi, parce que moi, je ne sais pas faire. C'est tout. Et je lâche. Je n'ai pas à m'occuper de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, parce que celui qui m'a envoyé va me diriger. À partir du moment où j'ai offert à l'Esprit, je ne m'en occupe plus. Parce que ce qui veut s'en occuper, c'est la même partie que celle qui a généré le problème. Donc, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. J'accepte humblement de dire que je ne sais pas faire, mais que l'esprit pur, qui n'est pas dans le temps, pas dans l'espace et pas dans la culpabilité, assurément entendra ma requête parce qu'il n'est pas dissocié de moi, c'est moi. Donc, une demande humble et véritable est une initiation au pardon véritable. Toi qui sais, aide-moi, parce que moi, je ne sais absolument pas comment faire. Je te laisse gérer la chose. Et puis, cette partie-là, juste, qui est dans l'amour, qui est dans notre vie, se manifeste avec certains indices que moi j'ai appris à reconnaître. Et un des premiers indices, c'est la joie. Pourquoi la joie ? Parce que la joie, comme l'amour véritable, ne peut pas être simulée. Je ne peux pas faire semblant d'être joyeux. Si je fais semblant d'être joyeux, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Ça sera une grimace, ça ne sera pas de la joie. Donc, comme disait Jésus, un travail qui n'est pas fait dans la joie est une piètre contribution au monde. Donc, il y a une façon de reconnecter mon être pur et véritable qui passe par la joie. Et me poser la question, qu'est-ce qui me rend joyeux ou joyeuse dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et envie, ça peut s'écrire en deux mots. Je suis dans la vie quand je suis joyeuse ou joyeux. C'est quoi mon œuvre? Qu'est-ce que je peux donner d'une manière complètement désintéressée? Et qu'est-ce qui peut se multiplier au fur et à mesure que je le donne? Qu'est-ce qui me rend grande? Et qui ne dépend pas de ce que les autres vont me dire en retour, hein, de la reconnaissance que d'autres. Je le fais pour le faire. Et ça me met en joie. C'est le propre de Dieu d'être dans cette attitude-là. C'est pour ça que c'est divin. C'est pour ça que c'est l'Esprit juste. Parce que Dieu s'étend en permanence, étend la création en permanence, et ne pose pas de conditions à la création. Donc je deviens, en étant joyeux, je deviens plus grand, tout le temps. Et le simple fait de m'étendre me suffit. Je reçois parce que je donne. Et donc j'ai pas besoin qu'on me dise « Ah, super ce que tu as fait ». Je peux l'entendre sans devenir dépendant du compliment ou dépendant. Je peux entendre la gratitude sans entendre le besoin de reconnaissance en moi. Donc, qu'est-ce qui me rend joyeux, hein? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Même un petit peu, même une minute dans ma journée. Cette minute-là, c'est de 2, 5, 10, 1 heure, 2 heures, c'est plus de 1 heure. Pourquoi? Parce que je sais que plus je me consacre à ça, qui est la mission véritable de mon âme, et le but de ma présence sur Terre, au nom de l'amour, au nom de « je ne suis là que pour aider véritablement », qui, ben mes frères et sœurs, parce que je m'aide moi-même, puisqu'il n'y a pas de séparation. Je donne de l'amour pour reconnaître que je l'ai, parce qu'il n'y a pas de séparation. Tout revient toujours à ça. Donc, je donne sans condition, et en faisant ça, je me reconnais digne d'amour. Et la culpabilité, c'est exactement l'inverse. C'est, tu n'es pas digne d'amour, et à cause de ça, tu seras puni. Donc, le pardon véritable, il se rapporte bien de cela, mais c'est passé véritablement. Je l'ai rêvé. Et je peux choisir un autre rêve, un rêve heureux, si nécessaire, ou demander un rêve heureux, si j'arrive pas à me connecter à ça. Et que jamais aucune porte ne peut être fermée, chaque seconde. Jamais aucune porte, parce que dans le monde du divin, il y a 3 mots qui résument la réalité. Tout est possible. Je suis ouvert à l'infini. Donc je peux m'hypnotiser en croyant que ce n'est pas vrai, ça n'empêche pas que cette réalité, elle est réelle. Je peux croire que c'est vrai. Dans les méandres de la souffrance autant de temps que je veux, ça n'empêche pas que en arrière-plan je rigole de m'autoriser des expériences aussi différentes, hein, parce que je sais qui je suis, je n'oublie pas qui je suis, mais je peux masquer tout ça, hein, avec des croyances. Donc les croyances sont super importantes. Les intentions sont super importantes parce que c'est des décrets, ces intentions. Surtout quand ça commence par « je suis ». Hein, « je suis » est le décret qui déclenche la grande photocopieuse de l'univers. Hein, « je suis dans l'abondance hein, ». D'accord, combien d'exemplaires hein, t'as le bouton de la photocopieuse et puis tu appuies. Hein, « je suis dans une santé parfaite ». Je suis parfaite, je fais toujours le meilleur possible, même si je suis pas la même chose. autre. Et à chaque fois que je suis quoi que ce soit, l'univers et Dieu disent d'accord, parce que c'est l'expérience que je choisis. Donc, si je ne choisis pas, je peux avoir des tas de choses que je ne veux pas. Ou si je dis, j'ai fait une énorme bêtise, d'accord, combien d'exemplaires de punition tu veux, hein? D'accord pour l'expérience du jugement, d'accord pour m'enfoncer profondément dans quelque chose que je crois inextricable. Mais à tout moment, je peux décréter autre chose. Hein? Et voilà, je demande de l'aide. Toi qui sais, dirige-moi. Même si je ne crois pas que c'est possible. Évidemment qu'il y a une partie qui croit que c'est impossible d'aller bien quand je suis engouffré dans le sentiment d'aller mal. Ça n'empêche pas que derrière les nuages, le soleil brille toujours. Il n'a pas baissé d'intensité alors que je croyais que j'étais coupable. Hein. J'ai juste mis des lunettes de soleil. Voilà. Alors, quelles lunettes je choisis de mettre, hein? Les lunettes grises qui me font percevoir la réalité comme un enfer, les lunettes roses qui me font voir ma vraie nature. J'ai le choix toujours, tout le temps, à tout moment. Et ça ne change pas en fonction de ce que je crois. J'ai toujours le choix.
J'ai toujours le choix de voir ce qui est vrai. Par exemple, dans ce que nous venons de vivre ici, il me vient que l'appel que je reçois en moi, c'est ma sœur qui m'a exprimé, qui m'a partagé. Sur une certaine culpabilité, etc. Ok. Quel est mon choix, moi? Mon choix, c'est de voir vraiment qui elle est. Et de dire, je veux voir. Je demande à l'esprit de me montrer la lumière de ma sœur, de me montrer le Christ qui est ma sœur. Et c'est là que ça se passe. Ça n'empêche pas les uns les autres qu'on a des échanges, on va répondre à des questions, on va s'aider, on va... Mais profondément, notre seule mission, travail, c'est sur nous-mêmes, c'est de demander à voir la vision de l'autre. Dans le livre de Brent Haskell, L'autre voix et Voyage au-delà des mots, qui ne sont pas traduits en français, Yeshua revient à chaque fois, c'est des petits chapitres de 7-8 pages, il commence par « Salutations à nouveau, je suis Yeshua ». Et je viens pour continuer les propos autour d'un problème. Et il termine à chaque petit chapitre qui fait ses propos, dire bénédiction, blessing to you all, that's all. Bénédiction à vous tous, c'est tout. Bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire bénédiction? Et il dit à chaque fois bénédiction, ça veut dire la bénédiction, je te donne qui tu es. Et c'est notre vrai travail, c'est de prendre conscience de qui nous sommes tous. Donc, merci à toi de ce partage, parce que ça me fait ça me réaligne sur mon intention profonde de demander à l'esprit de me montrer qui tu es vraiment. C'est ce que nous explique le cours en miracle en disant ton frère ou ta sœur, enfin c'est ton frère et ton sauveur, pourquoi il me permet de rechoisir. Et je rechoisis la bénédiction, je veux voir qui tu es, je veux voir que tu es la lumière, que tu es l'expression de Dieu, le Christ. Et c'est cette vision-là qui va me montrer qui je suis. C'est pour ça que le cours nous dit ton frère et ton sauveur. Notre travail, il est que sur nous-mêmes. C'est un travail de changement de vision intérieure. Donc vous voyez qu'il y a apparemment un paradoxe, c'est-à-dire que nous parlons, vous écoutez cet enregistrement, etc. Et finalement, vous êtes confronté à vos relations, et à chaque fois, c'est vous qui êtes la clé. C'est pas l'autre. C'est jamais l'autre. Et quand il y a, par exemple, ce partage avec cette sœur ici qui nous exprime sa vision, son impression d'être, d'avoir fait un mauvais choix, son impression d'être abandonné, très bien. Quel est le cadeau pour chacun d'entre nous? C'est de voir vraiment qui elle est. Donc, merci, elle me permet de choisir. Comment est-ce que Dieu la voit? Mais Dieu ne voit que Dieu partout. Donc, il ne voit que l'innocence. C'est cette vision-là que je veux. Ah, c'est ça. Et c'est là que, c'est ce que veut dire le cours quand il dit ton frère et ton sauveur. Chaque relation que nous avons, c'est un appel à ce qui est vrai. Qui est l'autre? Alors évidemment, on ne va pas le verbaliser comme ça quand quelqu'un arrive avec un problème. Et une profonde compassion et une attente. Mais intérieurement, le travail ne se fait que sur nous-mêmes, pas sur l'autre. C'est ce que commencent à comprendre beaucoup de thérapeutes qui commencent à comprendre que ceux qui viennent les voir avec des questions, avec des choses à résoudre, etc., sont des cadeaux pour eux-mêmes. Ils ont de plus en plus cette attitude d'enfant qui sait qu'il sait rien et qui écoute et qui effectivement cesse de se faire du souci sur ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire en sachant que ils vont être dirigés par celui qui les a envoyés. Et nous sommes tous envoyés par l'esprit que nous sommes. Et c'est pour ça que nous nous remercions beaucoup les uns les autres. Et ces groupes, ici, évidemment, à chaque fois, on remercie tous les membres du groupe, même ceux qui ne parlent pas, bien sûr, parce que nous sommes en communion les uns les autres. Il y a comme cette joie d'être ensemble, cette joie de cette pièce de théâtre, ce remerciement mutuel. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est pas une plaisanterie, hein, c'est vraiment ça. Un remerciement mutuel de qui nous sommes tous, et de l'amour que nous partageons.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de dire, surtout avec Sylvain, que même ceux ou celles qui ne parlent pas, mais notre silence en dit long. Même ce silence, c'est une façon de s'exprimer. Et je reconnais ici que même si c'est un petit groupe, et bien moi je ressens tout l'amour qui circule. Et ça c'est très intéressant. Et je reconnais aussi, parce qu'on était thérapeute, parce qu'en ce moment, j'ai eu la chance de pouvoir me mettre en année sabbatique. Et quand j'étais en thérapie, enfin, j'étais thérapeute. Et c'est vrai que l'autre, ben, je le remerciais beaucoup parce qu'il apprenait, il m'apprenait beaucoup. Et ça, c'était très important, effectivement. Et c'était très agréable de pouvoir le remercier. Et on se remerciait beaucoup. Parce que l'autre me faisait beaucoup avancer. Et en fait, la personne qui arrive, il arrive avec sa problématique, mais avec sa solution aussi. Voilà. Donc, voilà, et moi je sens que l'amour circule et le silence aussi, et ce petit groupe est très chouette.
Alors, je me sens guidé à lire à nouveau un petit passage de l'Évangile selon Jésus qui me semble bien pertinent dans notre partage actuel. Jésus parle de notre don, hein, que chacun de nous a un don en soi, en lui, en elle, et que notre vie consiste à le trouver, à l'exprimer, à le partager, ce don. Alors bien sûr, c'est un don d'amour, hein, mais au-delà de ça, nous allons vers une forme particulière qui s'exprime dans ce monde d'un moyen particulier, d'une façon particulière. Et le début du paragraphe, c'est qu'une seule personne avance vers l'individuation et chacun se sent autorisé à en faire de même. Voilà, pouvoir donner, hein, donner ce qui est à l'intérieur profondément. Hein. Et il continue de cette manière. Vous engager à exprimer votre don va transformer votre vie. Toutes vos structures limitatives commencent à s'effondrer dès que vous prenez cet engagement intérieur envers vous-même. Tenter de changer ces structures de l'extérieur est vain. Le changement ne se fait pas comme cela. Il se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous accueillez votre don et traversez la peur qui vous retient de l'exprimer, les structures anciennes, dépassées, qui fondent votre mode de vie, perdent toute énergie. Privées de nouvelle énergie, ces structures disparaissent. Vous n'avez rien à faire. En disparaissant, elles créent dans votre conscience une plus grande ouverture qui vous permet de reconnaître votre don, l'affirmer et l'alimenter suffisamment pour qu'il s'exprime. Votre situation professionnelle, votre vie familiale, votre façon de dormir et de manger commence elle aussi à changer lorsque vous entreprenez de vous honorer et d'avancer vers votre joie. Voilà, c'est éminemment parlant pour moi. Ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui me fait pétiller, hein? Qu'est-ce qui me rend vivant et vivante? Si je m'intériorise, aussi peu soit-il, je vais sentir une part de moi vivante et joyeuse qui a envie de donner. Hein. Et cette partie-là, c'est une partie vraie de moi qui veut se mettre au service. C'est dans les enseignements de Saluza, il disait, à un moment donné, l'appel à se mettre au service est tellement puissant qu'il devient impossible d'y résister. J'ai vécu ça personnellement. Je sentais que le meilleur moyen de recevoir, c'est de me mettre au service, de d'étendre qui je suis, d'étendre la conscience de qui je suis. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre est une bonne question pour moi qui peut se poser. Comment je peux rayonner qui je suis, être de la même nature? Et ça passe par un espace d'amour pour moi-même, d'autorisation pour moi-même. Il n'y a pas un être sur Terre qui n'a pas sa note, sa nature, sa voix, sa joie à donner au monde. Et c'est comme ça que nous aidons, hein, puisque les autres contactent un espace d'autorisation à faire de même lorsqu'ils voient. Et nous savons que lui met sa valeur lorsque nous laissons rayonner ça. Et la valeur, c'est une valeur infinie, une valeur infinie, qui n'est pas conditionnée. Mais ça demande de passer par un moment de vide. De vide de quoi? De vide de l'ego. De vide de certitude. J'essaie de me voir telle, de m'alimenter telle, et de me rappeler que cette lumière, elle est divine. Alors, je demande sans être Dieu à la partie juste de moi qui n'attend que mon appel pour intervenir. Je suis persuadé que bien peu de ceux qui se sentent victimes ont demandé véritablement à voir les choses différemment. Je veux voir, je veux me rappeler de qui je suis, je veux me rappeler de l'amour que j'incarne ici, et que je suis profondément de ma nature. Je me demande au plus profond de mon cœur, et cette demande ne peut pas être inattendue, parce que je la demande à moi-même. Je suis toujours attentif à ma propre vie. J'ai un appel à mon ami qui est en moi, et tout ce que j'ai à faire, c'est à l'exprimer sincèrement, authentiquement, sans volonté propre, sans attente particulière. Je me dis que je suis en train de faire des choses. Je disais dans le livre, je disais, vous écrivez une lettre à Dieu avec tout votre cœur, et vous l'attendez. Et vous ne pouvez pas la prendre si vous ne la lâchez pas. Je la laisse aller vers ce chemin dans l'univers. Et si je retiens la lettre, je ne l'entends pas. La lettre est compliquée, je me contente à la terre. Je vais contenir, m'attacher, m'imaginer dans le monde, je veux. Le monde, c'est ce que je veux. Depuis longtemps, aux âges, nous savons très bien faire. Maintenant, lâcher des désirs que m'accrocher à une volonté va me rendre heureux. Ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Ben oui, pour l'instant, je ne connais qu'une seule chose. Je ne comprends pas. Je ne sais rien. Il y a un rabbin qui disait, l'intelligence absolue, c'est de savoir qu'on ne sait rien et de savoir dire. C'est l'état d'intelligence. C'est l'intelligence créatrice de l'univers, pas l'intelligence mentale. Voilà, il est l'heure de clôturer ce groupe et je vais le faire avec un son cloche. Il y aura encore une rencontre et après il y aura une interruption. Je préciserai, je pense que ça se fera la semaine prochaine. Vraisemblablement, le dimanche, je préciserai par email. Et en même temps, quand je dis ça, je pourrais aussi ajouter que je ne sais pas. Non, c'est juste une possibilité parmi d'autres. Voilà, dans la joie de qui nous sommes et de ce rappel qui s'impose à nous de plus en plus, à travers tous ces échanges, ces partages,